Bon midi, chers auditeurs de Boulevard 102.1. J'espère que vous allez bien en cette journée de prévention du suicide. Je le rappelle, 1-866-APPELLE, APPELLE. Si jamais vous vivez une problématique quelconque à l'heure actuelle, vous avez des idées noires, ça va pas bien dans votre vie, vous dites « Ah, maudit que j'en arrache puis que j'ai de la misère », appelez au 1-866-APPELLE. J'ai fait un témoignage ce matin des idées noires que j'avais le 5 juillet 2019. Et si j'avais pas justement appelé à ce numéro et j'avais pas pris soin de moi-même et appelé mon frère, mon ami Pascal, ben je serais pas en train d'animer une émission de radio aujourd'hui. Donc d'ailleurs, c'est Carl qui écrit « Bonjour mon ami, content que tu aies pris la bonne décision en 2019 ». Ben en effet, c'était la bonne décision, Carl, t'as entièrement raison. Et je suis très content de l'avoir pris. Donc pour ceux qui présentement vivent avec de la douleur interne et qui ne veulent pas en parler, 1-866-APPELLE.
Peux-tu poser une question, Jeff?
Ben oui, vas-y.
Maintenant, quand t'en parles, tu prends la parole, est-ce que tu dis « Hey, Colin, que j'aurais pas vu où j'allais être dans ces années-ci, là, en 2025, à ce moment-là. » Est-ce que toi, c'était fini, tu n'étais pas capable de te poser la question ou d'entrevoir que le bonheur allait revenir au point où nouvelle blonde, nouvelle maison, full de fun avec tes ados, nouvelle carrière.
Ouais. Tu m'aurais dit ça le 5 juillet 2019, je serais dit, voyons, tu es en train de construire un monde imaginaire.
Parce que ça, souvent, il y en a qui vont le dire, ouais. Ah, ben là, vous savez pas ce qui s'en vient, restez là, prenez soin de vous. Puis il y en a qui trouvent ça utopique un peu, là, ouais. Quand tu vas pas bien, là, des fois, d'entendre ça, tu te dis, Colin, je comprends, mais je le vois pas, moi.
T'as entièrement
toi,
raison.
C'est arrivé, mais tu as fait aussi des gestes concret par
ben
la
oui.
suite.
Ben oui, j'en ai parlé là, ce matin, là, thérapie avec un psychologue, thérapie de groupe, 20 séances de groupe de discussion avec des hommes comme moi. Tu sais, les hommes, Antonine, là, tu peux te joindre à la conversation, même si on n'a pas appuyé encore sur le bouton, le caucus Iacarini. Tu sais, des hommes que on garde tout en dedans, nous autres, les gars, c'est vrai ça, okay, qu'on garde en dedans. Puis même moi, je suis quelqu'un qui le verbalise. Ma mère trouve que je le verbalise plus que mon frère et mon père. Fait que tu t'imagines comment les deux autres verbalisent pas si moi je verbalise. Mais puis 20 groupes de discussion où tu travailles sur tes impulsivités ou tu travailles sur ton mental. Avec une dizaine de boys qui ont le même âge que toi puis qui vivent la même affaire que toi, il y a un sentiment de confrérie qui se crée, qui
t'es
est vraiment
seul,
immense.
Tu moins seul vraiment. C'est parce que c'est
vraiment.
Encore tellement tabou aussi. Puis quand tu vis ça, tu as l'impression que tu es tout seul. La solitude, elle est vraiment énorme. Puis de faire comme ça des initiatives de groupe, ça a un impact qui est très différent que de faire une thérapie. Puisque faire des thérapies aussi, c'est évidemment, ouais. c'est très important, c'est très bien. Mais l'aspect de groupe, effectivement, puis surtout chez les hommes, t'sais, parlons-en un peu là, du portrait au Québec en ce moment. Il y a des statistiques, il y a les histoires derrière les statistiques, mais il y a les statistiques aussi. C'est toujours un fléau, le suicide au Québec. Depuis les années 60, hein, il y a eu comme une grande augmentation. Mm-hmm. Après la Révolution tranquille, on peut faire nos hypothèses sur pourquoi au Québec on a des taux de suicide aussi élevés. On parle de 3 suicides par jour. Ça baisse un peu depuis le début des années 2000. En fait, 2004-2005, ça a commencé à baisser, mais pas énormément. 3 suicides par jour. C'est énorme. Ça veut dire aussi des milliers de personnes endeuillées à chaque année. Puis le deuil de quelqu'un qui s'est suicidé proche de soi, c'est extrêmement difficile. Les gens se sentent coupables. Les gens se disent « qu'est-ce que j'aurais pu faire? » C'est extrêmement difficile pour les familles. Puis en plus, avec le suicide, c'est qu'il y a un effet de contagion aussi. Malheureusement, tu as plus de chances de te suicider ou d'utiliser cette voie-là face à tes difficultés si tu as connu quelqu'un dans ton entourage.
En psychologie, là, j'avais un cours complet, une session complète là-dessus. Puis les rayons, là, même quelqu'un qui va bien, s'il y a cet impact-là dans sa vie, ça perdure même sur des années, même si la personne est lucide et comprend que ce n'est pas une solution A. Puis c'est drôle, ça me permet de faire cette ouverture-là. Puis je l'ai vu en fin de semaine, je sais qu'elle me le permet parce qu'à un moment donné, ça va venir, le Kilimanjaro, Fondation Cerveau, puis on va en jaser. Mais moi, c'est une de mes meilleures amies. Son père s'est enlevé la vie dans les dernières années. Puis je me rappelle, j'étais où, à quel moment, assise, puis qui me l'apprend. Mais c'est encore 6 ans, 7 ans plus tard, là, douloureux comme si ça faisait 6 mois, sans réponse, sans réelles explications, et les impacts relationnels que ça a fait dans sa vie, comment ça a miné ses relations autour d'elle, sentiment d'attachement, le désengagement, même la difficulté d'entrer en connexion avec quelqu'un rapidement et rapidement, je mets ça en parenthèse, là, mais tu sais, pour une relation de couple, c'en est fini son couple de plusieurs années. Essayer de rentrer en relation avec d'autres hommes, toujours un peu de la misère avec son engagement là-dedans. Ça a créé des choses où on ne se rend pas compte quand peut-être on se dit, hey, je vais libérer ma famille, je vais libérer mes amis de ma lourdeur. Non, non, bien au contraire.
Non, puis c'est bien que tu amènes ce point-là parce que moi, je l'ai raconté ce matin, puis pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute, là, je le redis, mais moi, c'est le 5 juillet 2019, j'avais décidé que je mettais fin à mes jours. J'ai tout préparé dans le sol, puis j'ai eu une éclair en me disant, hey, je suis censé aller arbitrer au deck hockey, j'ai arbitré au deck hockey ce soir-là. Puis j'ai dit, faut que j'aille arbitrer au deck hockey, parce que je ne vais pas arbitrer au deck hockey, ils vont me chercher trop de bonheur. Tu sais, pour te dire à quel point mon plan est avancé. Fait que j'ai dit, je vais aller arbitrer au deck hockey, comme ça, je vais faire ça pendant la nuit. La mère des enfants, qui était ma conjointe à ce moment-là, était partie avec les gars 3 jours en camping, puis j'ai dit, ça sera la police qui me récupérera le lendemain. Ni vu ni connu. Ouf. Les gars n'auront pas conscience de ça, pis ça. Fait que j'étais là que j'étais dans ma tête. Mais quand je suis arrivé au décoquer, j'arbitrais. Là, j'avais juste la face de mes deux gars en tête. Puis j'ai la chanson des vilains pingouins, Salut salaud, qui est partie dans ma tête. Puis c'est là que j'ai décidé d'appeler de l'aide parce que je me suis dit, ça n'a pas de bon sens que je sois ce salaud-là pour mes gars.
Ça n'a pas de bon sens
que je pourrisse la vie de mes enfants de cette façon-là.
Le délai mental que ça t'a donné pour avoir un genre de pas de recul semi,
ben oui, exactement.
Ça t'a sauvé aussi.
Mais c'est hyper important, cette question de délai, parce que les gens qui pensent qu'on peut pas aider quelqu'un qui a des idées suicidaires, c'est complètement faux. On peut aider quelqu'un, puis des fois, juste de tendre la main à quelqu'un cette journée-là, tu sais pas, là, mais tu vas y avoir sauvé la vie parce que son mal-être va pas disparaître tout d'un coup. Mais des fois, c'est juste le délai que ça prend pour se faire tendre la main, puis après ça, ça mène à autre chose, un appel au 1-866 appel, etc., qui fait toute la différence. Puis, tu sais, on parlait de... Bon, le taux de suicide est plus élevé chez les hommes que chez les femmes, 3 fois plus élevé, en fait. Il y a presque autant de tentatives, en fait, hein, chez les femmes que chez les hommes. C'est juste que les hommes vont davantage jusqu'au bout, utilisent aussi des méthodes qui sont plus létales, sans rentrer dans les détails nécessairement. Mais quand on parle aussi de pourquoi c'est les hommes, ben, il y a un aspect d'impulsivité à travers ça.
Vraiment?
Les hommes sont plus impulsifs que les femmes de manière générale. Donc, justement, ce délai-là, c'est comme, OK, ça se passe maintenant, donc
c'est
irréversible. Après, ben, c'est sûr que s'il y a de la présence d'armes à feu dans la maison, des fois, il y a plus, par exemple, de gens qui ont des armes de chasse, etc., ben, il y a plus de chances, évidemment, de commettre l'irréparable à ce moment-là que des personnes qui n'ont pas accès nécessairement à ce genre de méthode-là. Puis il y a plus d'hommes que de femmes qui chassent, qui ont des armes à feu au Québec.
Martin Bourget, qui est chroniqueur ici à Boulevard 101, oui. Chasse et pêche, lui... C'est pas le collaborateur que vous allez entendre. Oh, ça va, chasse. Il est tellement intéressant puis tellement lucide. Puis il dit une des meilleures choses que vous pouvez faire chez quelqu'un, vous savez, il a des armes à feu. Si vous l'aimez profondément puis vous sentez qu'il y a une passe particulière, il vous en voudra. Mais vous n'allez jamais vous en vouloir d'avoir appelé la police pour dire hey,
absolument.
Je doute
de l'état. En fait, on est responsable. J'ai fait mon cours en fin de semaine pour maniement possession d'armes à feu parce que je veux commencer à chasser. C'est un de mes objectifs dans la vie.
Hey, j'espère que tu vas m'inviter à manger de l'orignal. J'adore ça.
Ah, je sais pas, je vais commencer par l'orignal, par exemple, Jeff, mais je te tiens au courant de mon évolution. Je pars de loin. Hein, je suis une petite citadine. Ouais. Moi, il n'y avait pas de chasseur dans ma famille, mais j'y travaille. Ils nous le disent. Vous avez la responsabilité. Si vous voyez que quelqu'un, premièrement, même a des problèmes conjugaux, on parle de suicide, mais évidemment, il y a malheureusement aussi des drames qui se passent dans les maisons. Vous avez la responsabilité de dire, écoute, on va faire en sorte que les armes à feu soient sorties de la maison. Mm-hmm. Mais ça, pour faire ça, il faut qu'on se parle. Et je pense que, tu sais, on parlait du suicide chez les hommes plus élevés. Honnêtement, moi, j'ai 41 ans. J'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui font des crises de la quarantaine. Donc, c'est un grand chapeau à travers lequel on met toutes sortes de choses.
Moi, c'est à 40 ans que ma crise suicidaire est arrivée.
Bien, c'est parce que c'est un moment de la vie où il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Je pense que quand tu n'as pas réglé aussi des choses à l'intérieur de toi, on dirait que c'est là que ça sort. Ça fait quelques années que tu as des enfants, tu es sous pression au travail, on a beaucoup de choses à payer. Bon, des fois, il y a des séparations aussi. Hein. Les hommes souffrent beaucoup des séparations, se retrouvent souvent très isolés parce que c'est beaucoup les femmes qui sont en charge du réseau social du couple. Et là, tout à coup, se retrouvent seules à la maison. La femme part avec les amis. Tu sais, c'est plate à dire, mais c'est pas par méchanceté, mais c'est comme ça. Donc, les gars, entretenez vos amitiés et demandez à vos amis comment ils vont. Puis peut-être qu'ils ne vous le diront pas du premier coup en passant. Fait qu'il faut le faire souvent. Tu sais, c'est le fun de jouer aux jeux vidéo puis aller jouer au hockey, mais il faut s'asseoir, se regarder dans les yeux des fois puis se jaser. Les filles ont fait beaucoup plus ça.
Ils sont plus dans le déni, puis ça, c'est
prouvé. Mais ils veulent avoir du fun quand ils se voient, puis on comprend, tu sais.
En fait, c'est de la recherche du plaisir éphémère. Celui qui fait du bien tout de suite.
Exact. Mm-hmm.
Mais qui sera pas, tu sais, va pas penser une plaie mentale.
Mais nous, les filles, là, on parle. Tu sais, veux pas, tu jases, tu te compares, tu te rends compte, crème, je suis pas toute seule à vivre ça, mon ami aussi a vécu ça, as-tu besoin d'aide, etc. Les femmes aussi sont plus dans le réseau de la santé. On va plus chez le médecin. Il y a comme des filets de sécurité comme ça que les hommes ont moins, plus difficile d'aller chez le médecin. Tu sais, les femmes vont être médicalisées, ne serait-ce que pour avoir leurs enfants, etc. Donc, ça fait des filets de sécurité supplémentaires. Mm-hmm. Donc, les gars, prenez des nouvelles de vos amis, mais prenez-les pour vrai. Soyez prêts à accueillir aussi les réponses. Ouais. Peut-être qu'il ne va pas répondre « Ouais, ça va bien ». Peut-être qu'il va répondre « Hey, sais-tu quoi? Je suis dans une passe tough. OK, ben on va t'aider. On va trouver des ressources. Puis pourquoi pas appeler le 1-866 appel. Même si ce n'est pas pour vous, vous pouvez le faire pour quelqu'un d'autre.
Moi, honnêtement, ça a complètement changé justement ma perception parce que quand les gens me demandaient comment tu vas, je disais toujours « Ça va bien. Hey, ça va super bien. » C'est pas vrai que ça allait super bien quand on était sur le bord de me suicider, on s'entend. Mais c'était ça pareil, ma réponse.
Tellement ton genre.
Non, mais c'est vrai. Et les gens ne pouvaient pas s'en douter. Ils disaient « Jeff, il rentre travailler, il a le sourire. Il va courir, il revient, il a le sourire. Il va prendre une bière avec ses chums, il revient, il arrive, il a le sourire. »
Personne n'a rien vu.
Non, pas vraiment. Je l'ai caché tel un gars qui refoule tout à l'intérieur. Mais maintenant, je me permets de le dire.
Pourquoi tu le cachais, Jeff?
Ben, je pense que c'est la honte. Clairement, la honte de ne pas filer. Je voulais pas être un boulet pour mes amis. Je voulais pas être celui qui arrivait et que quand il était là, il cassait le party puis j'osais toujours de ses problèmes.
C'est parce que quand tu recevais ça avant de quelqu'un d'autre, tu sentais que c'était un peu lourd puis tu savais pas quoi faire avec.
Je saurais pas te le dire. C'est vraiment, là, moi, là, pour de vrai, ça déboule rapidement aussi. Okay. À un moment donné, tu t'en rends comme pas compte puis t'es arrivé à dire « OK, ça va être fini ». Puis on dirait que ça s'est fait dans un laps de temps.
Tu le vivais, ça montait, ça s'accumulait, mais tu le laissais de côté dans le genre de déni, justement,
en
de plaisir
ça.
Éphémère du quotidien.
En disant, bon, ça va passer. Mais moi, dans les faits, ça faisait un an et demi que je vivais avec une boule sur l'estomac. Tu sais, quand t'es nerveux de quelque chose, physiquement, moi, ça faisait un an et demi que je vivais avec ça. Fait que c'est un peu ça aussi qui fait en sorte, puis tu sais, que je me disais, hey, regarde, là, ça fait un an et demi là, que t'sais, ta vie, là, t'es pas heureux. Là, fait que regarde, va-t'en.
T'avais plus d'espoir.
Exactement. Dans ta famille, il y avait cette ouverture-là à discuter de ses émotions?
Oui, il y en a toujours eu, surtout chez ma mère. Ce qui m'a surpris, moi, qui m'a étonné, c'est qu'une fois que j'ai appelé le centre de prévention du suicide puis que j'ai commencé la thérapie, tout ça, je me suis assis avec mon père pour en jaser. Puis j'ai appris à ce moment-là que mon père avait déjà été suivi par un psychologue, il n'en avait jamais parlé. Puis il m'a même dit, fait que là, ma mère doit m'écouter à la radio,
ça
fait que je m'excuse pas, maman le sait peut-être pour la première fois. Mais il a dit, parle-en pas à ta mère. T'sais, fait que je suis un peu comme mon père.
Même
moi,
à ta femme, c'est dur. Hein,
ouais. Ben, tu sais, moi, mon ex-conjointe, j'en ai pas parlé.
Pourquoi?
Je veux dire, je suis arrivé là.
Tu te sentais comme le pilier de la famille?
Oui, exactement. Puis il y avait beaucoup aussi à l'intérieur de ça, de remords, parce qu'à ce moment-là, je me rendais compte que je voulais me séparer, mais mon frère t'a pas séparé, mes chums t'a pas séparé, mes parents t'a pas séparé. Puis là, je me disais, ça n'a donc même pas de sens. Moi, je veux faire ça à mes enfants.
Tu te sentais dans l'échec, probablement.
Dans l'échec total. J'avais décidé de retourner travailler pour des organismes communautaires qui faisaient en sorte que ça me donnait une énorme diminution de salaire. Puis ça, le changement de rôle aussi dans la famille, j'avais pas bien évalué ce que ça allait faire. Dans le sens que, tu sais, moi, là, avec les jobs que j'avais, là, OK, les enfants, voulez-vous aller à Walt Disney? Oui, parfait, on réserve Walt Disney. On est parti.
Puis là, c'était plus ça.
Ouais, là, c'était plus ma présence. Puis en fin de compte, la présence est bien plus importante que Walt Disney, tu comprends?
Initialement, ton changement de cap professionnel, c'est-tu parce que tu disais, crime, j'ai envie de prendre soin de moi mentalement aussi? C'était beaucoup de charges, de gestion.
Ah, vraiment, initialement, c'est parce que je
suis. Ça a amené la charge financière. Après,
en plein ça.
Genre d'effet boomerang. Ouais. Oh.
Initialement, moi, le changement de travail, c'est parce que j'avais pris la décision. J'étais allé voir un psychologue orienteur. j'étais plus bien dans qu'est-ce que je faisais. Ça faisait des années que je gérais du service à la clientèle, du département des plaintes, puis là, me faire appeler par des clients sur mon cellulaire le samedi matin qui sac, ça me tentait plus. Et puis, ça a sorti hyper fort le côté bienveillant, mm-hmm. le côté don de soi, tout ça. Fait que la psychologue orienteur me disait, hey, tu devrais retourner travailler dans les organismes communautaires.
Ça t'sais, va te nourrir en même temps que ça donne un sens.
Puis quand tu me parles de l'organisme communautaire, tes yeux illuminés, puis tu le quittes, je me disais, ouais, mais Caroline, l'organisme communautaire m'a gagné le quart du salaire que je gagne, ça n'a pas d'allure. T'sais. Finalement, avec ma conjointe, on a décidé que je le faisais quand même. Puis, je ne le regrette pas du tout. Là. Ça a été une des très, 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 très bonnes décisions dans ma vie. D'ailleurs, ils m'ont accompagné de façon impeccable. Là. Je salue Carole et Yann qui m'ont accompagné dans cette épreuve-là de façon impeccable.
Mais engrenage tout ça, quand même.
Mais tout
complet.
Ça, tu sais, changement de rôle. C'est ça, changement de rôle, moins bien dans ma relation sentimentale.
Tu sais, dans cette passe-là, Jeff, j'ai une question parce que ça va aller chercher tous les commentaires qu'on reçoit au 88-97.
Oui, en passant, vous
aussi.
Êtes super généreux là, d'en faire. Merci beaucoup.
Puis je vais être très transparente. Mes derniers meetings de groupe qu'on a eu à Boulevard 101, j'ai pris la parole puis j'ai dit, hey, en passant, je vais juste ramener quelque chose parce que je pense que la transparence, l'honnêteté de se dire les vraies choses, ça doit primer. Mm-hmm. Ça doit primer parce qu'après, les perceptions, le radotage, le potinage, l'interprétation, le travail en silo, ça peut vraiment miner, puis ça peut finalement être super lourd sur quelqu'un quand la personne, elle s'en rend pas compte. Puis j'ai dit, soyons transparents les uns envers les autres. On sait pas ce qu'on vit. Moi, je sais pas ce que Denis vit. Je sais pas ce que Yann vit. Peu importe, dans l'équipe. Puis j'ai dit, vous êtes pas obligé de vous confier. Mais soyons toujours aux aguets de se dire, hey, OK, telle personne réagit X aujourd'hui. Mm-hmm. Pas dans le jugement, dans, oh, ça doit être une mauvaise journée. Puis après ça, sinon, de l'appliquer à la conversation. Toi, quand t'allais pas bien, mm-hmm. T'avais-tu l'impression que tes comportements avaient changé puis qu'on pouvait te juger là-dessus puis qu'au final, c'est juste parce que t'allais pas bien ou, tu sais,
J'avais-tu cette impression-là? Pas vraiment. Je reviens à ce que j'ai dit tantôt. Moi, je voulais pas être un boulet pour personne.
Tu faisais vraiment exprès d'aller bien.
Mais je sentais quand même que j'étais un boulet, tu sais, dans le sens que quand j'avais le goût de raconter des choses, c'était toujours des choses qui me faisaient de la peine, qui me fâchaient, Fait que, t'sais, c'est ce qui m'avait mené à ces idées suicidaires-là, de dire hey, écoute, dans le fond, je suis un boulet pour ma blonde, je suis un boulet pour mes enfants, je suis un boulet pour mes chums, je suis un boulet pour ma job. T'sais. Fait que c'était un peu ça, puis c'était une vision très, très, très noire et négative là, de ma vie, mm-hmm. parce que dans les faits, j'étais pas ça. Là. Il y a pas mal de monde qui me l'ont dit quand j'ai raconté mon histoire, que dans les faits, j'étais pas ça, puis ça m'a fait du bien. Là. Mm-hmm. Mais ça, puis je le dis ouvertement, t'es allé chercher de l'aide. On parle du 1-866 appel, qu'on parle de psychologue. Moi, je le dis très ouvertement, je suis médicamenté pour des troubles anxieux, des troubles d'impulsivité, c'est juste parfait pour ma vie, puis je m'en passerais pas.
Écoute, une personne sur trois dans sa vie va avoir des troubles anxieux ou va vivre une dépression. Donc, il faut vraiment pas avoir honte, puis il faut aller tout simplement chercher l'aide dont on a besoin. Puis quand on se met à en parler autour de soi, on se rend compte que finalement, il y a un paquet de monde qui vivent la même chose, chacun de son côté. Puis on dirait qu'il y a un poids sur les épaules qui s'en va quand on prend la parole.
Je remercie tous les gens qui nous textent à l'heure actuelle, des gens qui nous disent « Ouais, les hommes sont formés pour être forts socialement. » Oui, mais on n'est pas forts, les hommes. Fait que demandez de l'aide, s'il vous plaît. Une personne qui marque « J'ai vécu », Nadine qui marque « J'ai vécu la même situation que toi, Pascal. Le papa de ma meilleure amie s'est ôté la vie il y a 5 ans. C'est dur à accepter. Je n'oublierai jamais l'appel de mon amie quand elle m'a annoncé et où j'étais. Ah, je comprends tellement. Ici également, on a un très beau témoignage de « Merci de parler de prévention du suicide. J'étais enceinte de ma fille quand ma sœur s'est suicidée, mes sympathies. Et oui, sa brise est survivant pour toujours. Demander de l'aide quand on ne voit que du noir, ce n'est pas une faiblesse, c'est signe de courage. » Et en effet, c'est la première chose que le psychologue me dit. Mais là, tu es assis avec moi, là, il dit « Je veux pas que tu vois ça comme un signe de faiblesse, t'es courageux. » Il y a plein de gens qui s'assoient pas, qui prennent pas le temps de venir s'asseoir avec moi. Puis dans mes groupes de discussion, on parlait de prendre soin de soi, c'est prendre soin des autres. Ça résonne très bien dans mes oreilles. Puis pour conclure sur le sujet, honnêtement, maintenant, j'en parle quand je vais pas bien. Ça permet à mon entourage de le savoir. Ça permet à mon entourage de discuter avec moi. Et ça permet aussi de montrer que je suis humain, que je suis pas toujours « Ah, ça va bien, la vie est belle! » Et avec ma gang de chums, ça a tout changé parce que maintenant, quand on prend une bière chez Gérard ensemble, la gang de chums, quand quelqu'un nous dit « ça va bien », pour de vrai est notre réplique. explique-moi pourquoi ça va bien. Fait qu'on est rendu tannant de même.
Même dans le beau, vous voulez savoir pourquoi c'est beau.
Exactement, parce que s'il y a une petite crotte qui est sur le cœur, elle va sortir aussi. Ouais. Surtout après trois peines chez Gérard, là, les crottes sur le cœur sortent.
Ça
tout
sort
temps,
toutes.
Là.
C'est bon.
Exactement.
Ça.
Fait que merci, merci pour vos témoignages. Martin qui écrit Jeff, ton parcours et le mien sont similaires. Martin, félicitations. Félicitations de t'en être sorti, toi aussi, franchement. C'est extraordinaire. Puis si j'en parle, et si j'en parle autant, c'est parce que je le sais qu'en parlant, on sauve des vies.
Oui.
Hier, j'ai fait un post Facebook là-dessus. J'ai immédiatement une personne qui m'a texté pour dire « Hey, c'est du quoi je file pas? » C'est un 866 appel, hein? Je vais appel. Puis il m'a retexté après pour me dire « Hey, c'est fait, j'ai appelé. » Puis je m'en vais consulter telle ressource demain. Ben,
imagine
parfait.
L'impact. Juste un statut Facebook, juste de donner le numéro d'aide, comment tu peux sauver des vies. Fait que l'importance d'en parler. Puis c'est à ça que ça sert, cette journée-là,
ben oui.
La journée mondiale de prévention. Tu sais, des fois, on se dit « Ah, les journées thématiques. » Non, non, celle-là, puis la semaine de prévention du suicide plus tard dans l'année. Hyper important.
Puis je sais que tu es à la salle d'entraînement présentement, mais je salue ma conjointe Val qui, ce matin, je connaissais ton histoire, mais j'avais les larmes aux yeux quand tu l'as raconté à la radio et qui m'a écrit « Je suis content que tu aies eu la chienne le 5 juillet 2019 parce que je ne vivrai pas le bonheur que je vis avec toi. » Donc, Val,
bien
je te salue et je t'aime beaucoup. Passons maintenant au caucus.
Le caucus. Le caucus. 102-1. Voici Antonin Iaccarini.
Merci les filles pour ce beau partage d'émotion.
Ben merci à toi surtout
ça
de partager.
Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci à toi, on a pris dans ton caucus Iaccarini.
C'était pour
même
une bonne
si
cause.
On voulait en parler dans le caucus Iaccarini. Bon, par où commencer après tout ça? On va commencer par le remaniement ministériel, Antonine, si tu me permets bien. Énormément de changements. Qu'est-ce qui retient ton attention en premier lieu?
Bon, d'abord... À peu près tout est sorti. Là. Moi, j'ai un conseil des ministres complet sur mon plan de chronique présentement. Écoute, il y a des perdants, il y a des gagnants. Je dirais que la première chose qui me frappe, si ma liste se confirme, c'est que le premier ministre n'a pas réussi à rétrécir son conseil des ministres.
Ouais, ça, il l'avait promis pourtant.
Bien, il l'avait-tu promis? Tu sais, moi, je fais attention aux promesses, là, mais je pense que c'était un objectif.
Ouais, il y en avait parlé, je pense.
Bien, c'est parce que là, dans les messages qu'il va avoir dans son discours d'ouverture en octobre, il y a le message de l'efficacité.
Ouais.
On est dans les déficits. On veut contrôler les dépenses. Donc, tu veux donner un peu l'exemple en ayant un conseil des ministres qui est rétréci. Bon, là, je veux juste dire quelque chose de vraiment, c'est un détail. Là. Mais on dit toujours des limousines. Hein? On veut réduire le nombre de limousines. Ils n'ont pas des limousines. Je veux pas que les gens pensent qu'à la maison, là, que le monde se promène dans des grands limousines avec du champagne puis un toit ouvrant. Okay, c'est pas ça, les voitures de fonction.
Ils sont pas sur la brosse à longueur de
journée. Non, non, non. Puis il n'y a pas de spa dans la limousine et tout ça.
Je vais faire une blague de mauvais goût.
C'est des vannes.
Ouais, mais je vais faire une blague de mauvais goût. Des fois, avec les décisions qu'ils prennent, on dirait qu'ils sont sur la brosse.
Oh, ça, ah, oui, je comprends. Je comprends. Je comprends. Mais c'est pas à cause des voitures de fonction. Ce sont des Toyota Sienna, d'habitude. OK? Les voitures de fonction. Fait qu'on va arrêter de dire le mot limousine. Donc, pas de réduction de grosseur du Conseil des ministres malgré les efforts et malgré qu'on a sacrifié des gens. Là, selon ce que je vois dans mon casse-tête, dans mon pool, bon, évidemment, François Bonnardel, on savait déjà. Il y avait André Lamontagne et Suzanne Roy qui avaient annoncé déjà d'emblée qu'ils se retiraient par eux-mêmes. Peut-être qu'ils auraient de toute façon perdu leur poste. Qui sait? Donc, il y a, pour l'instant, là, selon mes sources, Maïté Blanchette, qui était ministre des Ressources naturelles, que là, moi, je la vois nulle part en ce moment dans toutes les sources d'informations.
Est-ce qu'elle paye le prix en raison justement de l'insatisfaction par rapport à son projet de loi sur les forêts?
Écoute, il y a de l'insatisfaction, il y en avait dans tous les ministères, pour être bien honnête. Fait que je pense qu'elle a juste perdu à la chaise musicale, tout simplement. Il y a sa voisine de circonscription, Amélie Dionne, qui est une députée très active et très appréciée, qui devrait faire son entrée aujourd'hui au Conseil des ministres, donc représentation régionale du côté du Bas-Saint-Laurent. Puis Gaspésie aussi, parce qu'il n'y a pas de ministre responsable à Gaspésie depuis 2022. Donc, si Amélie Dionne fait son entrée au Conseil des ministres, elle serait pour le portefeuille du tourisme et elle serait certainement le ministre responsable de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent. La deuxième affaire qui me frappe après la grosseur du Conseil des ministres, c'est si ma liste se confirme, on est soit très, très short pour avoir une parité ou on l'a pas. Là. On n'est pas dans la zone paritaire.
Penses-tu que ça va faire une tollée? T'sais, on a souvent dit que la CAQ, c'est un boys club, justement, avec Koskinen et Legault qui mènent la charge.
Ben, cette étiquette de boys club que la CAQ porte, que je trouvais pas toujours justifiée, pour être honnête, parce qu'il y a eu vraiment un effort de recrutement de candidatures féminines en 2022. Il y avait une parité, il y avait des femmes dans des postes très, très importants, vice-première ministre aussi, etc. Mais c'est vrai que l'équipe plus autour du premier ministre. C'est, mettons, quand on se dit, OK, le premier ministre, là, quand il a besoin de conseils, il appelle qui? Ben, c'était Martin Koskinen, Christian Dubé, Éric Girard, Pierre Fitzgibbon. C'était ça l'idée du Boys Club. C'est pas qu'il n'y avait pas la parité comme telle. Maintenant, ben, on arrive avec cette symbolique de la parité au Conseil des ministres qui n'est plus là. Ben, c'est sûr qu'il y a un terreau fertile pour les critiques parce qu'on avait déjà un peu cette trame de fond de Boys Club à la CAQ. Bon, on verra. Il y a quand même des femmes qui auraient des promotions. Là, si on regarde un peu les noms. Bon, on va faire un peu le tour si tu veux,
ben oui, vas-y.
Jeff. Dans ceux qui ne bougent pas, Christian Dubé à la santé, Éric Girard aux finances, Christine Fréchette, économie énergie, Jean Boulay au travail, Lionel Carman aux services sociaux, Mathieu Lacombe à la culture, Simon-Jeanin Barrette devrait garder le portefeuille de la justice. Éducation, on a vu Bernard Drainville, c'est sorti là, dans les médias, qui s'en irait à l'environnement. C'est pas exactement une promotion, puis c'est pas exactement un dossier facile. Et ce serait peut-être Sonia Lebel qui prendrait le relais à l'éducation. Donc, pour Sonia Lebel, était au Trésor, c'était quand même prestigieux, mais éducation, c'est un gros morceau aussi.
Penses-tu, et là, je parle de Sonia Lebel et de, justement, Bernard Landry. De un, Sonia Lebel à l'éducation.
Drainville.
Drainville, oui. Landry. Landry, quel lapsus!
Mais c'est drôle, parce que j'ai pensé à lui ce matin, fait que j'ai failli le laisser passer, puis je me suis dit, non, c'est pas Bernard Landry.
Sonia Lebel à l'éducation. Sonia Lebel, c'est une femme très cartésienne. C'est une ancienne procureure. Moi, pour moi, ça m'apparaît être un bon choix parce que l'éducation a besoin d'être recentrée, recadrée.
Oui, puis elle a de l'expérience avec les syndicats parce qu'au Conseil du Trésor, tu gères les négociations avec les syndicats. Donc, elle a quand même une expérience de ce côté-là. Elle est reconnue aussi pour dénouer des situations qui sont complexes, pour pas polariser, mettre de l'huile sur le feu, etc. Donc, on verra. C'est sûr, c'est pas un dossier facile. Une autre ministre qui a une promotion, ce serait France-Hélène Duranceau. On s'en parlait un peu plus tôt cette semaine de France-Hélène Duranceau. Que ça avait brassé à l'habitation, qu'il y avait eu plusieurs gaffes de son côté. Puis on sentait là, dans ce que le cabinet du premier ministre spinait, donc dans les couloirs, qu'il préparait le terrain pour dire que non seulement elle restait au Conseil des ministres, mais elle se retrouverait au Conseil du Trésor, Francine Duranceau. Donc ça, c'est quand même passer de l'habitation au Trésor, c'est une promotion.
Est-ce que ça te surprend, puis je reviens à Drainville et non Landry, à l'environnement? Bernard Drainville a toujours été le gars qui faisait les jobs de bras pour François Legault.
Oui.
À l'environnement, là, il y a une job de bras à faire que Carney a commencé, c'est les véhicules électriques. Penses-tu que Drainville est là pour ça?
Oui, c'est un bon soldat, Bernard Drainville. C'est sûr que la première chose que tout le monde s'est dit en voyant que Bernard Drainville s'en allait à l'environnement, c'est sa phrase qu'il avait prononcée pendant la campagne électorale. Et il y avait un contexte, le pauvre, mais tu sais, quand ça part...
Lâchez-moi avec ça, les chars vont être électriques, fait que le troisième lien,
lâchez-moi
ça créera
avec
pas
les GES.
Des GES.
Bon, donc ça, c'est la première... Je sais pas combien de personnes m'ont texté ça hier soir quand c'est sorti, cette phrase-là. Donc, il va falloir qu'il... En fait, il part avec un petit déficit de crédibilité sur la question de l'environnement. Mais Bernard Drainville, c'est un ministre qui, quand il prend un dossier, il le prend vraiment au sérieux. Donc, il travaille presque 24 heures sur 24. Là, j'exagère un peu, mais à peine.
Il
c'est quelqu'un qui est workaholic.
Député, là, dans le coin de Montréal, c'était la même chose qui sortait. Au début, là, un poste de député, c'est pas la même chose que ministre.
Non, non, non.
Il était déjà à fond la caisse.
Oui, dans l'opposition, il faisait un travail de feu. J'ai travaillé avec M. Drainville. Je peux vous dire que des fois... j'y étais rendu 22h30, puis j'étais comme là, on peut-tu fermer
même affaire dans les médias,
aujourd'hui?
Parce que moi, j'ai travaillé avec dans les médias, c'était la même chose.
Non, mais il travaille comme un malade, donc il va faire son travail en environnement de manière vraiment rigoureuse, mais c'est sûr, encore une fois, l'environnement, la CAQ, c'est un peu compliqué. On est dans un contexte aussi qui dépasse le Québec, même là, sur le côté de l'environnement, on sent qu'il y a comme un retour du pendule, il y a moins d'acceptabilité des changements d'habitude, tu parlais des véhicules électriques, là, on part dans des projets d'hydrocarbures au niveau fédéral, etc. Donc, il va y avoir un travail quand même d'équilibriste à faire pour M. Drainville. Un autre qui a une promotion, Jonathan Julien, qui était aux infrastructures et qui, là, se retrouverait au transport, selon toutes les sources.
Celle-là, honnêtement, elle m'a étonné. Et là, quand on parlait ce matin dans le Marceau le matin, Yannick Marceau a dit, d'après moi, Julien, il est juste là parce que ça va être Koskinen qui va gérer en arrière pour s'assurer qu'il ne se passe plus rien. Et Jonathan Julien va être le gars up front. Moi, j'ai dit, Jonathan Julien, c'est un gars d'équipe.
Oui.
Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Il a accepté de se tasser pour laisser la place à la ministre Guilbeault dans le dossier du troisième lien et du tramway, alors que c'est de la capitale nationale. Il a toujours joué le jeu d'équipe.
Il défend les positions du gouvernement auprès de tout le monde. D'ailleurs, c'est un peu ce qui a fait en sorte que c'est devenu difficile dans la capitale nationale.
Hein? Ben oui.
T'sais, à un moment donné, tu as le choix. Soit que tu pousses du côté de ton gouvernement... en portant la voix des acteurs régionaux, ou soit que tu pousses un peu les décisions du gouvernement sur les... Ben, c'est un peu des deux là, à la fin de la journée, mais c'était un excellent soldat.
C'est un excellent soldat. Fait que d'après moi, de le mettre là, c'est qu'on va aussi lui donner des gens compétents pour qu'on réussisse à reprendre le contrôle. Et comme c'est un gars d'équipe, ben, il va suivre les directives. Je me trompe-tu?
Non, je pense que c'est à bonne place. Par contre, il ne serait pas ministre responsable de la région. La rumeur veut que ce serait Jean-François Simard, député de Montmorency, qui hériterait d'un autre dossier aussi que la capitale nationale. Ce que j'entends, c'est ressources naturelles, mais je sous toute réserve. Donc, un nouveau visage. Ça peut changer la dynamique. Premièrement, Jean-François Simard, c'est quelqu'un qui est extrêmement gentil. C'est un gars qui est très humain, qui est vraiment axé sur jaser avec les gens, etc. Est-ce que ça va mettre une nouvelle dynamique? Parce qu'on le sait que ce n'est pas toujours facile à Québec, entre la CAQ, entre l'administration Marchand. On a des députés de QS, on a un député du PQ. On ne marche pas tous dans la même direction, et pour le meilleur et pour le pire. Donc, d'avoir un nouveau visage comme ça, un gars très, très humain, est-ce que ça peut aider à la relation entre le gouvernement et la ville, peut-être?
Son passé au PQ, est-ce que ça pourrait faire en sorte, parce qu'en capitale nationale, on a déjà vécu le fameux trio Agnès Maltais, Sam Hamad, Gérard Deltel, qui travaillaient les trois mains dans la main, même s'ils étaient pour trois partis politiques différents, pour faire avancer la capitale nationale. Son passé au PQ pourrait-il faire en sorte que, justement, créer des liens avec Pascal Paradis, mais aussi certains liens avec Étienne Grandmont et Sol Zanetti, compte tenu qu'il est peut-être un petit peu plus à gauche sur l'échiquier politique?
Écoute, j'aime ton hypothèse. Par contre, on est en année préélectorale. Moi, je pense qu'il n'y aura pas de quartier les uns envers les autres. Je ne m'attendrais pas à une super collaboration. Des fois aussi, les anciens péquistes qui sont partis à la CAQ, ben, ça peut provoquer plutôt de l'animosité et pas nécessairement des affinités comme telles. En fait, on verra. C'est quelqu'un qui était apprécié à l'Assemblée nationale, M. Simard, qui était président de commission parlementaire et qui faisait un travail très transpartisan avec les autres partis. Mais là, une fois qu'on devient ministre de la capitale nationale puis qu'on commence à parler de tramway puis troisième lien, ben là, tu tombes dans la politique solide.
Exactement. Il n'y aura pas de partisanerie là-dessus. Je termine le caucus Iacarini avec ceci, chère Antonine. François Legault est le premier ministre le plus détesté à l'ensemble du Canada. Il n'y a pas de vice-première ministre. Est-ce que François Legault prépare son départ et laisse, mais pas personne à l'avant-plan pour que cette fameuse course à la chefferie-là, tout le monde parte sur la même ligne de départ?
François Legault a trôné pendant un bon moment au sommet de la liste des premiers ministres des provinces.
Pendant la COVID notamment.
Pendant la COVID, puis ça en était quasiment indécent. On avait des taux de satisfaction soviétique et nord-coréen pendant un bout de temps. Là, il est vraiment en queue de peloton, bon dernier à 22 %. Est-ce que le fait de ne pas... Puis là, encore une fois, sous toute réserve, on n'a pas de nom qui circule pour vice-premier ministre ou vice-première ministre. Tu posais l'hypothèse, est-ce que, par exemple, c'est parce qu'on ne veut pas faire de favoritisme envers un successeur potentiel à François Legault? J'aime l'hypothèse, mais je me dis, il y a quand même encore quelques heures dans la journée, puis nommer un vice-premier ministre, c'est pas comme si tu revirais un ministère de bord. Là. C'est assez facile, il n'y a pas de ministère qui vient avec, fait que tu peux bien te décider à la dernière minute.
Oui, parce que si je suis premier ministre, je peux te nommer vice-premier ministre 2 minutes avant de rentrer.
Ça ne change pas grand-chose. Faut juste peut-être changer les documents. Là. Peut-être que le lieutenant-gouverneur va courir un petit peu, mais c'est pas bien grave, tu réimprimes le document, puis c'est pas plus compliqué que ça. C'est peut-être ça, mais moi, ce que j'entends vraiment, c'est que le premier ministre est déterminé à ne pas quitter. Est-ce que ça va être le cas? Est-ce que vraiment on va avoir un François Legault en 2026 au débat des chefs dans un bus de campagne? Pour l'instant, c'est dur à imaginer.
Oui.
Mais il va faire son opération remaniement. Il va avoir une nouvelle équipe. Est-ce que ça va donner ce nouveau souffle tant attendu? Il y a beaucoup de gens qui doutent, mais qui sait. Donc, on verra. Moi, le fait de ne pas nommer de vice-premier ministre, effectivement, je vois une certaine prudence aussi, parce que si on nomme Simon-Jolin Barrette ou Sonia Lebel ou Geneviève Guilbeault, ben c'est sûr que ça donne un petit avantage, mais vice-premier ministre, dans le fond, ça fait quoi, là, en dehors de la pandémie? Parce que pendant la pandémie, ça avait un impact. Mm-hmm. Mais maintenant... Maintenant, ça change pas grand-chose.
C'est un rôle plus symbolique que d'autres choses, c'est ce que tu nous dis.
Ben, absolument.
Excellent. Antonine, on se reparle demain?
À demain.
Demain, on va avoir une petite visite à midi. Pascal Paradis, député de Jean Talon pour le Parti québécois, va venir justement commenter ces changements-là au Conseil des ministres et lui, comment il voit justement l'avenir de la capitale nationale. Puis après ça, on fera le petit caucus Iaccarini de midi 15 à midi 45. Ça te convient?
Certainement.
Magnifique. Tu vas pouvoir participer à l'entrevue avec un immense plaisir. On s'arrête un court instant. Par la suite, Pascal, tu es allé voir des restaurateurs qui en ont plein les bras.
Oui, je l'en aurais adressé un petit mot de ce qui se passait au niveau de la construction aussi à Québec. Je pense que tout le monde est impacté, que tu sois automobiliste, que tu sois commerçant, que tu sois travailleur ou comme le réseau de transport de la capitale. En ce moment, ce qui se passe au pont, c'est très complexe. Imaginez quand on n'est pas capable de se rendre à votre commerce. Puis ça, c'est jusqu'en 2027. Il y en a qui en ont long à dire.
Il y en a qui en ont long à dire et il y en a qui peut-être bien vont fermer leurs portes justement à cause de ça. Si je ne m'abuse, la Fenouillère a fermé ses portes là, dans le coin. Alors merci Pascal de nous avoir préparé cet excellent dossier qu'on suit après cette courte pause, vous êtes à On en jase sur Boulevard 102.1.
On se tourne, en fait, tous les yeux sont tournés vers le remaniement ministériel aujourd'hui. On change de job, on regarde un peu où est-ce qu'on peut apporter notre don de soi. Peut-être que vous dites, ouais, la politique, très peu pour moi, mais vous avez aussi envie d'un remaniement dans votre vie. Ben, il y en a un que vous pouvez faire et c'est chez Hébergement Rive-Nord. Pourquoi? Parce que, tu sais, Jeff, il nous le confie un peu plus tôt ce matin à quel point ça fait du bien de travailler à quelque part où tu sens que t'apportes quelque chose. Ça te nourrit. Toi, t'essaies de nourrir les gens qui en ont besoin, mais eux aussi te nourrissent. Puis c'est ça qui se passe. Chez Hébergement Rive-Nord, depuis 2015, quand on a fondé tout ça, on a monté une équipe qui est continuellement à la recherche d'innovation pour améliorer la qualité de vie, puis aussi la qualité des soins pour les bénéficiaires. C'est qui ces bénéficiaires-là? Bien, c'est des gens qui présentent une déficience intellectuelle et ou un trouble du spectre de l'autisme et qui ont besoin de vous au quotidien. Donc, de 5 ressources intermédiaires qui hébergent ces gens-là avec une équipe qui est passionnée, qui est dynamique, surtout composée de super éducateurs spécialisés, d'intervenants en délinquance, des travailleurs sociaux et d'autres aussi qui veillent au bien-être quotidien des résidents et des collègues de travail parce que personne qui est laissé pour compte. Chaque emploi du côté d'Hébergement Rive-Nord fait en sorte qu'il y a une contribution, une collégien aussi qui est importante puis surtout un genre de sens à ta vie professionnelle. Je vous en parle souvent depuis des années maintenant parce que j'y crois puis j'y crois aussi que c'est un lieu de travail qui consiste à changer votre vie en même temps que vous changez celle des bénéficiaires. Si ça te parle, si tu sens que tu as besoin de ça, fais en sorte que même ton CV de bloc pas. Tu vas travailler en collaboration avec des gens qui vont te former, qui vont être là pour toi et ils ont des préoccupations importantes comme animer des activités auprès de la clientèle, veiller au bien-être des milieux de vie. C'est pas seulement d'avoir une expertise, c'est aussi d'avoir le cœur à bonne place. Si tu as des questions, si tu veux en savoir plus, rendez-vous sur le Facebook d'Hébergement Rive-Nord. Je te jure que ça, c'est à reconsidérer dans ton remaniement.
On en jase, ton show du midi sur Boulevard 102.1 de midi à 14h avec Jeff Fortin et Pascal CV pour nous joindre en studio 418-971-1021. Vous avez été beaucoup à le faire depuis le début de l'émission. Continuez comme ça, ça nous fait un plaisir de vous répondre et de vous lire également notre application Boulevard 102.1 disponible sur Apple Store et Android. La web radio avec Boulevard FM, BLVD FM. Et on est aussi disponible sur les haut-parleurs intelligents. Vous dites BLVD. Écoutez BLVD et ça va vous amener directement à Boulevard 102.1. Pascal, avant de passer à ton excellent dossier sur les restaurateurs qui en arrachent dans le coin de la tête des ponts, quelques manchettes et on commence avec une agression sexuelle quand même assez sordide dans le coin de Lévis, si je ne m'abuse.
Hey, sordide, c'est le mot, Jeff. Je trouve ça toujours difficile, hein, des effets du genre, on voit des dossiers de faits divers dans l'actualité puis les effets, des fois, ils viennent nous chicoter.
Ah, vraiment?
Pas qu'on est immunisé quand on travaille là-dedans, mais des fois, on a un genre de barrière qui se crée pour être capable de vous les livrer, ces nouvelles-là.
Mais on en a tellement chaque jour, comme maintenant, on fait comme ben, un autre, mais celle-là...
C'est plutôt, en fait, le paravent qu'on se met pour être capable de vous les livrer dans la neutralité et pas l'émotivité, mais il y en a qui nous touchent plus particulièrement. Puis là, il y a celle-ci. Du côté de Lévis, il y a un aîné de 87 ans qui est concerné parce qu'un individu qui se trouvait déjà en prison pour d'autres infractions criminelles qui a été arrêté pour avoir commis des crimes sexuels violents sur cet aîné-là de 87 ans, directement dans la résidence de l'aîné. Ça s'est fait à Lévis en juin dernier. Donc, selon la police de Lévis, Guillaume Cazot Saint-Hilaire. Je vais répéter trois fois,
oui,
moi, dans
vas-y.
Ces affaires-là. Je fais toujours trois fois, tu me connais.
Oh, let's go.
Il va être introduit dans un genre de spectre judiciaire parce que lui, il s'est introduit dans une demeure de Lévis-Centreville il y a trois mois pour s'en prendre à la résidente. Il l'aurait séquestré. Il lui aurait infligé des lésions corporelles en commettant une agression sexuelle complète. Et ça rend encore plus tragique l'attaque, mais il n'y aurait pas de mobile en particulier. C'est ça qu'on se demandait pas au hasard.
Oh, épouvantable.
Une pure inconnue pour lui, c'est ce que mentionnait le porte-parole du SPVL, Jean-Sébastien Levent. Donc, Guillaume Cazot Saint-Hilaire, 31 ans, originaire du secteur des Jardins à Lévis, qui a été arrêté sous mandat aujourd'hui pour répondre à des actes prémunis. Je veux dire hier, là, parce qu'on est mercredi. Oui. Puis il était déjà incarcéré, comme je vous disais, au centre de détention de Québec depuis le début du mois d'août. Il purgeait une peine de 55 jours en lien avec des menaces, des voies de fait, puis des voies de fait contre agents de la paix également. Cet homme-là, Guillaume Cazot Saint-Hilaire, on va en reparler plus tard, c'est sûr, mais
vraiment
absolument atroce comme dossier.
Clairement.
Pas moins de 90 kg de cristal meth qui ont été dissimulés dans des véhicules neufs. Et on en parlait hier pour les concessionnaires du Québec et du Nouveau-Brunswick. Ça a finalement été saisi par les autorités. Puis on est revenu un peu là-dessus aujourd'hui parce qu'au total, là, c'est cette substance-là qui a été retrouvée. C'est dans une dizaine de véhicules de type Ford Bronco un peu partout dans la province. Et on avait plus d'informations au courant des dernières heures comme quoi ça s'est fait à Chicoutimi-Jean, qui est à Rivière-du-Loup, Lange-Gardien ici dans la région, Charny, Beauceville, Thetford Mines et au Nouveau-Brunswick. Puis on parle de plus de 200 livres de cette substance présumée être de la meth, donc cristal meth, méthamphétamine, qui devrait être envoyée à l'analyse par Santé Canada. On rappelle que c'est dans une opération à grande échelle qui s'est amorcée lundi, dont on a eu des nouvelles hier et qu'on a plus de détails aujourd'hui. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. On est allé directement en attaque dans d'autres garages automobiles qui signalaient une anomalie. Donc, d'après les informations qu'on a recueillies, c'est en provenance du Mexique que ces véhicules-là arrivaient puis auraient transigé par la gare de triage de Charny et ensuite acheté ailleurs dans la province.
Alors, un réseau très bien établi là, qu'on a réussi à mettre à jour.
Puis je termine la portion de faits divers avec des individus qui s'en sont pris physiquement à deux mineurs à l'aide d'armes pour les forcer à se déshabiller sous la menace. Ils ont été arrêtés le week-end dernier. On vient d'avoir l'information comme quoi ce serait survenu entre le 30 août et le 2 septembre dernier. C'est une période pendant laquelle les suspects attiraient une des victimes de 17 ans dans des endroits spécifiques. Et là, on faisait des menaces verbales, physiques, à même avec des armes contre ou des armes aussi qui s'apparentaient à des armes à feu. Puis on demandait à la victime de retirer tous ses effets personnels. C'est encore une fois les porte-paroles qui sont en train de nous donner ces informations-là, cette fois-ci au niveau du service de police de la Ville de Québec. Puis il y a une autre victime, 17 ans, même âge, qui aurait subi le même sort et s'est interposée pour empêcher les malfaiteurs d'agir. Donc, trois suspects entre 17 et 18 ans qui ont finalement été arrêtés vendredi dernier puis samedi aussi dans l'arrondissement de la Haute-Saint-Charles. Ils font face à des accusations, extorsion, agression armée, voie de fait, menace, puis quelques infractions aussi en lien avec les armes à feu.
C'est une très bonne nouvelle qu'on ait réussi à mettre le grappin sur eux. Pascal, je t'en parlais la semaine dernière, rue Saint-Vallier-Ouest, je te disais, hey, ça n'a pas d'allure, les commerçants là-bas. Il y a des trous partout dans la rue. On peine justement à faire notre chiffre d'affaires, même qu'on avait une commerçante qui nous avait parlé, 60 % de diminution. Mais là, c'est le même principe qui s'applique présentement à la tête des ponts avec cette fameuse phase 1 des travaux.
Ouais, c'est super compliqué, puis moi, j'avais parlé avec quelqu'un qui était chargé des chantiers routiers à Québec, là, de la porte-parole du MTQ, dans leur CV il y a 2-3 semaines. Mm-hmm. Puis j'avais dit, OK, parfait, mais là, on le sait, nous autres, qu'il y a des commerçants qui ça va prendre un détour de 30 à 40 minutes pour aller manger
au
chez
commerce.
Eux. On s'entend que manger, c'est essentiel dans notre vie. Ouais. Par contre, le choix de restaurant, il y en a un, puis il y en a un autre ici à Québec.
C'est ça. Ça se peut que je décide de ne pas faire 30 minutes additionnelles de char pour aller à un restaurant.
Puis même si tu tripes sur le Michelangelo, je comprends que tu vas peut-être choisir un autre restaurant.
Exactement.
Et honnêtement, ça pourrait mener à d'immense détresse financière en ce moment pour des gens qui sont là depuis des années. Les travaux, là, c'est des travaux de déviation sur le chemin Saint-Louis. C'est complètement fermé à la circulation. Puis c'est entre l'avenue des Hôtels puis l'avenue de la Vigerie. il y a eu un genre de glissement de terrain, puis là, il y a des travaux sur la route 175 qui affectent la sortie du chemin Saint-Louis. On est là-dedans, puis on est là-dedans pour plusieurs années, jusqu'en 2027. Hier, sur les réseaux sociaux, il y en a un qui s'est dit, ben moi, je vais faire un cri du cœur parce que je vois les choses arriver, puis c'est bien compliqué. C'est Nicolas Cortina. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous présenter cet homme-là?
Pas vraiment.
Homme d'affaires très connu ici du Michelangelo. C'est un restaurant qui a sa réputation et il y en avait long à dire sur la situation.
Vous ne pouvez pas vous rendre sans faire un détour de 30 minutes. OK? C'est qu'ils font des travaux un peu majeurs pour revitaliser la tête des ponts. Je vous attendre un peu de bruit, pourquoi je suis dehors dans le restaurant. Il y a 7 pelles mécaniques, de grosses pelles mécaniques. Tout est clôturé. C'est l'enfer. C'est des travaux majeurs qui, si on avait accepté ces travaux-là avec un peu de temps limité, d'accord, mais ça prend des années. Ils vont avoir des travaux jusqu'en 2027.
Ça n'a pas de sens, Pascal, jusqu'en 2027, des pelles mécaniques. Fait que, il n'y a rien d'invitant pour le client.
Ah non, puis c'est super dur à supporter, en fait, puis il nous en parle aussi.
C'est évident qu'un commerce, il ne peut pas supporter ça. OK? La chenouillère, le galopin, moi, les hôtels. Les hôtels, c'est un peu différent, pourquoi? Ils savent pas qu'il y a des problèmes, ils réservent les chambres de longue distance, et puis ça va pas si pire. Mais nous, qu'on est restaurateurs, qu'on a besoin de nos clients, on n'a plus. Aujourd'hui, il y avait 2 clients qui avaient réservé, qu'on connaît, puis il dit, oublie ça, Nicolas, je n'étais pas capable de me rendre. Alors, voyez, on vive ça. C'est évident que la situation, comme dit le ministère des Transports, il faut le faire, mais il aurait dû peut-être organiser ça différemment et puis nous aider un petit peu. Pourquoi nous, on a des frais fixes qui sont attachés à notre commerce, qu'on n'a pas aucune contribution, OK? C'est évident que on vit des moments difficiles au bout de 54 ans, de 52 ans de restauration. On n'avait pas besoin de vivre ça.
C'est super compliqué, je veux dire, des années à investir tout ce que tu peux dans un domaine qui n'est pas facile non plus.
Exactement.
Avec la pandémie, avec le fait que la nourriture, tous les produits de base augmentent, essaie de te faire ton argent un peu dans l'alcool, mais quand même. Puis il a nommé d'autres restaurateurs qui sont près de lui, puis c'est un genre de consortium en ce moment, ils se parlent comme ils peuvent, mais c'est aussi le cas de Mathieu Guérard, qui est propriétaire du Galopin. Il trouve ça très inquiétant.
Ben c'est sûr qu'il y a une détresse financière, sauf que, tu sais, en même temps, ça fait plus qu'un an. Hein, tu sais, il y a eu le COVID. Après ça, il y a les travaux comme ça de même qui durent depuis, je dirais, au moins minimum 2 ans et demi. Là. On a fait le plus possible de marcher avec le gouvernement. Ça a été très, très dur là, dernièrement, mais tu sais, j'espère qu'on va trouver une façon de trouver une entente, parce que, tu sais, le but, c'est pas de fermer. Là. Moi, ça va faire 2-3 ans que j'injecte de l'argent dans le restaurant. J'aimerais ça voir les fins de la construction. Là.
52 ans pour M. Cortina. Du côté de Mathieu Guérard, on investit de l'argent justement pour augmenter la notoriété et la qualité au niveau de son restaurant.
Il y a le pain très connu en passant, c'est juste qu'il vient d'acheter là, à Sylvain
Exactement.
Boudreau, Gallo, que tout le monde connaît ici dans la région. Fait que, je veux dire, lui, il achète quelque chose, il veut que ça marche, puis... Tout arrive en même temps. C'est pas facile. J'ai un moment que j'ai clippé là, avec M. Cortina parce que je me disais, c'est tellement stupide. Il y a des gens qui disaient, ouais, mais c'est normal de faire la construction. Ils sont d'accord. Ils sont vraiment d'accord. Mais ils savaient que ça allait arriver. Ils ont essayé de parler avec la ville. Ils ont essayé de parler avec le MTQ. Puis il n'y a comme pas de solution. Puis ils disaient, nous autres, parce que ça reste des années d'investissement. Écoutez là, ce qu'il faut faire pour essayer d'aller du côté du Michelangelo.
Comme là, il nous a envoyé un plan, c'est très difficile. Si vous venez de Québec, il faut que vous preniez la Vigerie, vous allez prendre le Bois Laurier, vous sortez pour prendre le pont de Québec, vous sortez sur le chemin Saint-Louis. Quand vous arrivez en face de la clinique Saint-Louis, il y a quelqu'un qui vous dit, ben, vous allez où, vous? Si, et puis, vous pouvez pas vous rendre. Si vous venez au Michelangelo, il vous laisse passer. Ils ont fait une entrée de côté. OK? Et puis, c'est évident, c'est compliqué. Quand vous sortez d'ici, ben, c'est difficile de retrouver le chemin pour retourner chez vous. Là. Alors, c'est les indications, il faut être un peu... Le GPS, oh, Wise, il vous amène toujours dans des rues fermées. Là. Et c'est compliqué.
Oublie ça. Moi, il m'a invité, M. Cortina, il a dit, viens prendre un café, viens voir. J'ai dit, je me rendrai pas sans GPS. Mon GPS n'est pas capable de m'amener. Oublie ça.
T'en repasses dans Bretagne.
Je
pour
reste
la
dans
Gravel.
Venez me chercher avec la grue. Puis tu sais, je pense pas être toute seule. Là, je vous le dis pour faire rire un peu, mais c'est
ah,
carrément
c'est,
vrai.
Mais ça n'a aucun sens. Je voyais le chemin dans ma tête, puis je me disais, OK, faut que je tourne sur le Laurier pour prendre la bretelle du pont de Québec, un chemin qui est déjà hyper difficile. Et là, en plus, faut que je dise à un signaleur, laisse-moi passer, je m'en vais au Michelangelo. Hey, c'est tout pour que j'y aille pas. Là.
C'est des détours de 30 minutes.
Laurier, pont de Québec.
Quelqu'un nous dit, je fais même pas à file au restaurant. Si j'ai pas de réservation, je vais pas imaginer faire un détour de 30 minutes. T'as beau aimer ton resto. Est-ce qu'on a essayé de vous aider? Quand je vous dis qu'ils sont en pourparlers, qu'ils savaient que ça arrivait, ils ont été proactifs, les restaurateurs. Ils ont demandé, est-ce qu'on peut être un peu dédommagé? Y a-t-il une façon de nous aider là-dedans? Parce que c'est sûr qu'on va être impacté. On écoute M. Cortina.
C'est évident que j'ai des avocats qui sont dans le dossier. Ils vont faire le nécessaire. Mais vous savez que le gouvernement, dernièrement, il s'est fait une loi à compter du 31 décembre 2024.
C'est ça.
Que vous ne pouvez pas rien vous opposer à des travaux. OK? Pourquoi nous autres, on avait commencé déjà à discuter en 2023, OK, de ces travaux-là, puis on avait demandé au ministère des Transports que c'était très grave pour nous. Ils ne nous ont pas répondu, et puis à la fin, ils ont sorti la loi, et aujourd'hui, on ne peut pas s'opposer à la loi.
Ils ont essayé d'avoir une discussion pour voir ça serait quoi les moyens de moyenner.
Ouais.
Quelles seraient nos solutions? C'est du cas parfait. On est quelques-uns, on n'est pas 150, mais ça reste que ça touche nos entreprises, ça touche l'économie d'ici. Ça...
Oui.
Bon. Comment on peut faire? Et on a passé une loi qui faisait en sorte, après ces débuts de discussion-là, qu'il n'y a personne qui peut s'opposer, il n'y a personne qui peut rien faire et il n'y a pas vraiment matière à discussion pour la suite des choses. Ça vient... très, très, très sensible et émotif parce que tu dis, j'ai essayé d'être un bon citoyen, un bon commerçant, d'avoir des discussions, je ne veux pas empêcher les travaux, mais est-ce qu'on peut trouver un moyen de s'entendre? Puis on a juste mis une finalité à tout ça en disant, ben, il n'y a rien à faire.
52 ans. On remercie M. Cortina pour ses 52 ans de loyaux services. Paye des taxes, paye des impôts, contribue à la société, emploie du monde. Puis on le remercie en disant, voici une loi pour te taire.
Puis là, tu dis, ben, OK, ça doit être général. On n'a pas vraiment donné de possibilité à M. Cortina d'aller plus loin parce que ça a été traité comme on est traité des fois comme un pion avec le gouvernement ou y a-t-il un rififi entre eux ou y a-t-il... Bon, je vais poser la question, tiens, à M. Guérard du Galopin. Est-ce qu'on vous a permis d'espérer des solutions, vous, de votre côté?
Absolument pas. C'est pour ça, justement, qu'on est aux nouvelles puis que dans le journal, on essaie de faire des cris du cœur. Tu sais, M. Cortina, hier, c'est une institution. Il ne faut pas que ça ferme. Là.
Rien pantoute.
Absolument rien. Alors, jusqu'à maintenant, on fait juste se demander on peut tenir combien de temps dans un contexte comme celui-là, avant une fermeture, avant une faillite, avant d'être passé à travers toutes nos épargnes, ce qui n'est pas normal d'avoir
pas
à faire. M. Cortina en avait long à dire.
Disons que là, je me suis donné comme objectif jusqu'au 31 décembre 2025, et puis après ça, je vais mettre en pause, voir qu'est-ce que ça va donner comme résultat avec qu'est-ce qu'on a gauche à droite. Là. Je ne sais plus, je suis franc avec vous. Je ne peux pas parler de l'avenir. Quoi. Ils ont les travaux, ils arrêtent les travaux le mois de décembre, et puis ils repartent le mois d'avril. C'est pas fini. La rue à cause de nous... Il ne sera jamais ouvert avant l'année prochaine.
Puis du côté de M. Guérard au Galopin, ben je lui ai demandé, vous êtes allé voir la ville, vous êtes allé voir le gouvernement au provincial, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ouvre une porte? Non, on se renvoie la balle, puis on se dit, ouais, non, ça c'est un MTQA, non, mais ça c'est à la ville, non, mais nous, le municipal, on n'a rien à voir là-dedans.
Donc, ces rues-là vont appartenir à qui? Vont appartenir au municipal une fois que ça va être terminé. C'est eux autres qui vont les entretenir, c'est pas le ministère des Transports qui vont s'en occuper une fois que les travaux vont être terminés. Je comprends, puis ça fait longtemps qu'on en parle, on en a parlé aussi dans les nouvelles. C'est comprenable, dans le fond, quand ils font des trucs sur la 20, mais présentement, quand ils sont là, dans notre cour arrière, c'est sûr et certain que peut-être qu'on serait capable de trouver une entente. Là.
Et écoute, Jeff, là-dedans, là, si t'es pas convaincu parce que tu dis effectivement faut faire les travaux, on se comprend, on est tout à la même place.
Ben oui.
Faut trouver un moment de les faire, c'est toujours compliqué. On veut nos réseaux routiers en santé, on trouve ça tannant à quel point qu'on a à les réparer. maintes fois en un an, en cinq ans. La chose est, imagine que c'est ton resto, que c'est ton commerce, et ou n'importe quelle situation dans laquelle tu as besoin d'aller parler à quelqu'un au municipal, au provincial ou au fédéral. Ça fait 2-3 jours qu'on parle de cas qui sont complètement différents, que ce soit les clôtures de piscine, que ce soit des restaurants impactés par tout ça, puis qu'on se rend compte que c'est toujours une question de « ben, t'es un pion pour nous.
Ouais.
T'es un pion pour nous. »
T'es un numéro.
À quel moment, au municipal, au minimum, on va être capable de redonner une voix à ces gens-là qui construisent économiquement, puis socialement, puis de toutes les manières possibles, mm-hmm. notre ville de Québec.
Mais t'as tellement raison. Moi, ce qui me rend triste aussi, c'est l'absence de dialogue avec ces gens-là qui comprennent qu'il va y avoir des travaux, qui sont même pour ces travaux-là, parce qu'à terme, ça va améliorer la fluidité à la tête mm-hmm. des ponts, mais qui veulent juste qu'on les entende puis qu'on mette en place des solutions qui vont les satisfaire pendant les travaux. Puis on ferme le dialogue.
Puis pas juste... la dernière minute, Jeff. Là.
Non.
Ça fait des années.
Ça fait des années.
Je tente d'être proactif puis de trouver un petit quelque chose.
Ah non, ça fait aucun sens. Et d'ailleurs, Benjamin qui nous écrit, c'est triste, on entend dans son intonation de voix sa détresse et son impuissance. C'est incroyable. Et oui, c'est incroyable. D'autant plus pour des restaurants comme le Galopin et le Michelangelo qui sont justement, qui font partie de la carte de visite de la ville de Québec.
Si vous avez un 2 minutes, soit un détour de 30 minutes, si vous avez du temps, si vous avez cette conviction-là qu'il faut les entendre, allez les encourager les restaurateurs qui sont dans le coin du chemin Saint-Louis. Vous allez pouvoir passer, ça va être mm-hmm. plus complexe. Si vous êtes des as sans GPS, bien, sachez que même les travaux qui sont en place, oui, on vous fait dévier, mais vous pouvez aller les encourager. Puis je pense que c'est à nous de jouer en attendant que ça bouge sur nos instances politiques.
Ouais. Et je termine avec un texto. La question qui tue, pourquoi les travaux durent une éternité au Québec, ça n'a aucun sens. En effet, pourquoi ces travaux-là vont avoir lieu jusqu'en 2027? Je parlais de la rue Saint-Vallier la semaine dernière. Tu sais, pour faire une rue 2 ans, je n'en reviens pas, moi. Je me dis, crime. Tout de même, ben, juste une rue qui ne fait même pas 1 kilomètre.
Hey, tu sais, M. Cortina, là, a passé 75 ans avec 50 ans d'existence. Là, c'est-tu gênant?
Ah oui, puis ça m'a fait mal au cœur quand il a dit, je ne sais pas c'est quoi l'avenir.
Je vais être franc avec vous. Je n'ai jusqu'à décembre.
Oui! Le cœur m'a fait rendu en deux.
Puis j'ai parlé longtemps, là. Puis ça me fait mal.
Ben oui, je te comprends tellement. Parce que j'y ai pas parlé, j'ai juste entendu l'extrait. Puis je suis devenu triste pour lui. Continue à réagir, 418-971-1021. On lit vos textos pendant la pause, c'est certain. Et au retour de la pause, on parle avec le chroniqueur Lambert Drainville. On va revenir, entre autres, sur Pascal Cévé. Pourquoi on sait tout déjà le conseil des ministres avant que François Legault l'ait annoncé? C'est-tu ça, toi? On a-tu tant d'insiders au Québec ou c'est juste que la CAQ laisse glisser des ballons politiques? On parle de ça avec Lambert Drainville au retour de la pause. Vous êtes à On en jase sur Boulevard 102.1.
On en jase jusqu'à 14h. On en jase.
En attendant, à 1h02, peut-être que vous vous dites « Ouais, là, le travail, je suis tanné un peu, il fait beau dehors. Il me semble que septembre est magnifique. » Oui, septembre est magnifique, puis on vous accueille sur Grande Allée. Il y a encore plein de vie. C'est pas encore la fin de la saison estivale, puis on a compris ça du côté du Maurice sur Grande Allée. On s'est dit « Ben, on va vous gâter la terrasse, on va vous gâter l'intérieur, on va vous gâter avec des soirées animées. Il y a toujours un chansonnier chaque soir. Posez-vous pas de questions. Où est-ce qu'on va? » Ben, le Maurice a pensé à cette ambiance-là qui va être rassuré. Et au Maurice, on a travaillé notre carte de table pour que vous puissiez autant avoir des plats à partager, autant des plats pour vous, ou encore manger en solo au comptoir. Ça fait tellement du bien, une petite pause des fois dans la vie de tous les jours, là, sur l'heure du lunch ou sur l'heure du souper. Vous dites, parfait, non, moi, ça me tente pas de réfléchir, j'ai pas d'épicerie de fait. Je m'en vais m'asseoir au Maurice. On prend le temps de vous servir, on prend le temps de vous orienter. Si vous voulez la paix, on vous la laisse aussi. Pourquoi? Parce qu'on est des spécialistes dans le service. C'est des gens qui sont passionnés de leur travail, qui sont passionnés de la cuisine. Puis c'est pour ça qu'on a ramené le Maurice avec cette formule-là. Depuis plus d'un an, on est bien en place dans un décor chaleureux à la fine pointe de la modernité. Puis on s'assure que vous ayez une place avec ou sans réservation sur Grande Allée au Maurice.
Ici Nathalie Clark, porte-parole.
À Boulevard 102.1.
Mais j'avoue que mettre des gants blancs pour ce genre d'exercice, c'est une idée qui ne me viendrait pas.
Jusqu'à 14h, on en jase.
Mais nous autres, on en jase pas de gants blancs. Non, c'est pas vrai. On fait de l'analyse rigoureuse. Et on est surtout très conséquent dans ce qu'on analyse. À Boulevard 101, l'émission On en jase, et c'est comme ça pour toutes les émissions. Je rappelle notre programmation. Marceau le matin de 6h à 10h. Le Point de Max avec Max Larouche de 10h à midi. On en jase avec moi et Pascal CV de midi à 14h. 14h à 18h, le retour de Gravel. Et Marceau le soir de 18h à 19h. Météo, c'est 20 degrés à l'heure actuelle. On parle d'un maximum de 23 degrés, 21 degrés ensoleillés demain et 20 degrés ensoleillés vendredi. Problème de circulation, Pascal?
Oui, il y a un petit bout quand même. Il y a eu un genre d'accident, une voie bloquée sur l'autoroute 20 Ouest à la hauteur du chemin des îles. C'est un incident avec pompiers sur place et tout ça. Ça fait en sorte que ça a congestionné. On a encore les impacts de tout ça, malgré que l'accident a été déplacé sur l'accotement. Soyez prudents. Alors, il va falloir peut-être mettre un peu moins le gaz au fond là, du côté de l'autoroute 20 Ouest.
Exactement. Donc, il faudrait peut-être l'agrandir, cette fameuse autoroute 20 Ouest à Lévis. On s'en va rejoindre le collègue, le chroniqueur qu'on adore, Lambert Drainville, parce que si vous ne le saviez pas encore, oui, c'est remaniement ministériel et les annonces officielles vont commencer dans environ 50 minutes. Lambert, comment ça va, mon chum?
Ça va super bien. Content de vous retrouver comme chaque semaine. Pascal, bonjour.
Bonjour, Lambert!
Parce que la semaine passée, c'était Mathias pour ça.
Ben oui, c'était Mathias qui était là vendredi, en effet. Lambert, je veux t'entendre là-dessus en premier lieu, et c'est ce que j'ai dit avant la pause. Moi, j'en reviens pas. Là. On est à 50 minutes que le nouveau Conseil des ministres soit officiel, mais on sait à peu près tout depuis hier. Comment ça, ça coule autant dans les médias? Pourquoi la CAQ n'est pas aussi hermétique?
Ben, si ça coule, Jeff, c'est parce que ça parle. Il n'y a pas 36 réponses. Ça veut dire que, tu sais, au final, c'est les ministres qui sont les seuls à être informés des informations, disons, de premier lieu. Et donc, ces ministres-là ont des familles, ont des enfants, ont des amis, ont des connaissances, ont des collègues, ont des staffs, des employés qui travaillent pour eux. Fait qu'il suffit qu'une personne dise ça à sa femme, qui dit ça à sa collègue de bureau, puis ça peut couler tout aussi facilement que ça. Mais c'est vrai que c'est assez fou, là, l'information qu'on sait en avance cette année. D'habitude, on connaît un, deux, trois, peut-être quatre noms là, qui font jaser, des rumeurs, surtout beaucoup de rumeurs, beaucoup de zones grises. Mm-hmm. Mais cette année, là, pour ce qui est le premier remaniement, en fait, le premier vrai remaniement d'envergure de M. Legault depuis qu'il est là en 2018, on connaît pas mal. Disons qu'il n'y a pas grande surprise là, pour ce qui est de la cérémonie de 14h aujourd'hui.
Ça semble assez statué et c'est sorti, comme on dit, avant même que le premier ministre nous le présente. Tu parlais de la famille, des amis, des enfants et tout ça. Mais je me demande si aussi il n'y a pas des revendications internes puis ça a coulé parce que tu as quelqu'un qui n'est pas satisfait de son poste ou est bien content de son nouveau poste. Donc, ça s'est jasé. Les journalistes sont constamment dans la vie de ces gens-là. Si ça a coulé, ça peut être à titre revanchard et ou de bonheur?
Oui, ben on va regarder les différentes nominations dans quelques secondes, mais peut-être. Sauf que si on, tu sais, de ce qu'on va jaser tantôt, il n'y a pas beaucoup, tu sais, il y a pas beaucoup de gens là, qui ont eu des démotions et qui demeurent quand même au sein du Conseil des ministres. Les gens qui n'ont simplement pas été renommés. On pense à François Bonnardel, on pense à Mme Roy, à André Lamontagne. Je pense pas là, que ces ministres-là, là, quand ils se font dire qu'ils ne seront pas impliqués au sein du prochain Conseil des ministres, qu'ils ont quelconques informations sur les autres nominations. Là. Fait que moi, je pense que c'est juste les ministres qui sont incapables de garder ça pour eux. Puis du moment que tu dis ça à une, deux, trois personnes, ben la nouvelle se répand. Et aussi, ben comme tu l'as dit, il y a des journalistes qui ont développé au fil du temps, des journalistes d'expérience qui ont des relations très, très bonnes avec certains élus et qui parviennent à aller gratter de l'information par-ci, par-là. Puis quand tu additionnes les journalistes de Radio-Can, les journalistes de LCN TVA, les journalistes...
De Voir la Presse.
Éco, de Boulevard 102.1, ben tu additionnes tout ça, ben éventuellement, voilà. Tout ça s'additionne. Là.
Lambert, dis-moi donc, ouais. Qui est heureux aujourd'hui? Moi, je pense à France-Hélène Duranceau qui accède au Trésor, à Jonathan Julien qui va au transport, même si le transport, ça reste un ministère qui va être très difficile. Mais c'est quand même une promotion pour lui. Qui est le plus heureux présentement?
Ah, je pense que pour France-Hélène, c'est effectivement une belle journée. Tu sais, y a beaucoup de gens qui doutaient là, de sa... Disons, certains doutaient même de sa place au sein de ce conseil des ministres-là. Certains disaient qu'en raison de ses enjeux au niveau de ses communications, des différentes petites tempêtes qu'elle a eues à
Par contre,
à
elle a été bonne dans le dernier mois, dans les derniers mois, livrer la marchandise en termes de logement social et abordable.
Ouais, ben C'est beaucoup ça qu'on entend. Hein? Les acteurs du milieu nous disent qu'au-delà de ces petites coquilles au niveau communicationnel, le maire Marchand, encore ce matin, était en entrevue au 98.5 ici à Montréal, puis mentionnait comment la collaboration est bonne avec, avec la ministre de l'Habitation, qui va visiblement devenir présidente du Conseil du Trésor. On sait aussi qu'elle a une relation de proximité avec le premier ministre. Elle a une formation en comptabilité comme lui. Elle a travaillé chez comme fiscaliste chez Raymond Chabot Grant Thornton. Et c'est ça, ses enjeux principaux étaient vraiment au niveau de ses communications. C'est pas la personne qui a le plus haut niveau d'empathie naturelle, et l'empathie dans un portfolio comme l'habitation, le logement social, les clientèles plus vulnérables, c'est sûr que c'est très important.
Ça a paru un moment, là.
Oui, c'est ça. Alors peut-être qu'un portefeuille comme ça, là, Conseil du Trésor, les négociations avec les syndicats, quelque chose de plus
pragmatique,
noir sur blanc, de plus carré, de plus justement, où sa formation de comptable et de fiscaliste va être des plus utiles. Moi, je pense que c'est une belle journée pour elle. Puis, tu sais, il y en a plusieurs autres, là, bien honnêtement. Il y a tous ceux qui n'étaient pas ministres qui vont être nommés. On pourra y revenir. Puis, il y a tous ceux, évidemment, qui avaient mentionné au premier ministre vouloir rester dans leur poste. On peut penser à Christian Dubé, Éric Girard, Christine Fréchette, Jean-François Roberge, Simon-Jolin Barrette, tout ça. Ce sont tous des ministres qui, selon moi, sont assez satisfaits de la suite des choses aujourd'hui, là.
Parle-nous de Jonathan Julien, parce que c'en est un qui est très connu ici dans la région. Il a traversé diverses tempêtes au municipal. Il a été un cheval, vraiment un allié de Régis Labeaume longtemps. Ensuite, ça s'est séparé. Il est allé au provincial. On l'a vu quand même être de front, là, avec François Legault. On lui a laissé des bonnes enveloppes et aussi de la bonne gestion, on s'entend. Ministre responsable des infrastructures en 2022. Il a été membre du Conseil du Trésor en 2024. Bien sûr, responsable de la région de la Capitale-Nationale depuis 2022. Mais ça, ça a créé beaucoup de remous parce que ici, à Québec, Lambert, comment c'était reçu? C'est que Jonathan Julien ne fait pas grand-chose puis il ressemble un petit peu plus au caniche de François Legault, pour reprendre des commentaires qu'on a eus au 88-971-1021, du genre, il aboie quand François Legault lui dit OK, puis arrête d'aboyer quand François Legault lui dit d'arrêter d'aboyer. Donc, ça a déçu beaucoup de personnes. On a senti qu'il était moins proactif. On l'envoie au transport, qui est un énorme ministère. Est-ce qu'on récompense finalement ceux qui disent vert quand le premier ministre dit vert?
Est-ce que c'est un cadeau ou est-ce que c'est un cadeau de grec de se faire donner les transports? Moi, je ne rentrerai pas, Pascal, dans les métaphores canines en ce qui a trait à...
Je reprenais les commentaires des auditeurs.
Oui, c'est ça, exactement. Mais c'est bien correct. C'est bien correct. Chacun a droit à son opinion, mais c'est ça. Oui, effectivement, Jonathan Julien, sans dire que, encore une fois, sans parler de métaphores canines, je n'étais pas plus impressionné qu'il faut... de son travail, le portefeuille des infrastructures, quoique oui, disons, étant un gros portefeuille en termes de financement, étant responsable du programme québécois des infrastructures, ça semble important. Ça reste que le PQI, ce programme-là, c'est une liste des projets d'infrastructures au Québec. Bien honnêtement, le ministre, son rôle en tout ça, il est un petit peu effacé, là. Tu sais, tu suis la liste, puis le prochain projet qui est prêt à être déployé sur la liste puis à construire, bien, c'est à son tour. Fait que, tu sais, c'était pas le rôle le plus important. Il fallait quelqu'un pour la capitale nationale après, disons, les frictions entre Mme Guilbeault et notamment le maire de Québec. C'est lui qui avait hérité de ce portefeuille-là. C'est maintenant Jean-François Simard. D'ailleurs, j'avais dit, Jeff, quand on s'était parlé il y a quelques semaines, que je ne le voyais pas devenir ministre. Mm-hmm. Eh bien, je me suis trompé. Visiblement, je me suis trompé.
Les meilleurs se trompent, Lambert.
Ben écoute, effectivement, ça arrive à tout le monde.
Et voilà.
Et comme je disais, pour Jonathan Julien, tu sais, est-ce que c'est vraiment une promotion ou c'est un cadeau de grec? Moi, ce qu'on me disait, c'est que, puis les quelques élus auxquels j'ai parlé, il n'y a pas grand monde, là. Il n'y a même personne, là, qui à l'interne disait vouloir de ce portefeuille-là des transports. Déjà, la machine en soi, le ministère des Transports, c'est tout un fouillis. C'est une machine qui est très difficile à contrôler, à mettre le grappin dessus et, disons, d'avoir les deux mains sur le volant. Ils peuvent être très têtus à l'interne. Rajoute à ça la gestion, évidemment, du fiasco de la SAAQ que va devoir faire le ministre Jonathan Julien.
La gestion juste de la SAAQ tout court, je te dirais, là.
Exact. Juste ça, c'est tout un défi. Embarque là-dedans la gestion du ministère en soi. Je pense que, pour moi, cette nomination-là, de M. Julien, ça confirme un petit peu que il n'y avait pas grand monde qui était intéressé par ce poste-là, parce que comme j'ai dit, moi, il ne m'a pas impressionné. Et de ce que j'entends, il n'y a pas grand monde là, qui l'avait dans leurs trois étoiles de la semaine là, au courant de son mandat comme ministre des Infrastructures.
Non, clairement. Lambert, je sais que tu as déjà travaillé avec lui. Lionel Carman, qui demeure aux services sociaux. Il y a une crise d'itinérance au Québec. Il y a une crise à la DPJ aussi. On n'a qu'à penser au rapport là, de la coroner Kamel. Comment tu vois ça? Tu t'attendais-tu à ce qu'il reste là ou tu te disais, ouais, peut-être ça va prendre un vent de fraîcheur compte tenu justement de cette crise-là?
Non, moi, je le voyais rester là. C'est un ministre qui est en place dans ces dossiers-là depuis le tout début, depuis 2018. C'est un ministre qui était recru en 2018, mais qui a pris énormément de galons depuis. Selon moi, pour l'avoir évidemment côtoyé de près, là, il n'y a pas beaucoup de ministres au gouvernement qui maîtrisent leur dossier autant que le ministre Carman. Et tu sais, ce ne sont pas des dossiers sexy, ce sont des dossiers où tu travailles avec les populations vulnérables, la protection de la jeunesse, l'itinérance, comme tu le disais, la santé mentale, les personnes handicapées.
Une belle sensibilité, ces clientèles-là, Lionel Carman.
Oui, c'est un homme, ben honnêtement, là, c'est pas pour lui lancer des fleurs, mais c'est quelqu'un de très, très humain. C'est quelqu'un aussi de très transpartisan qui va travailler avec tout le monde, peu importe sa couleur politique, peu importe le parti. Puis c'est des dossiers qui sont peut-être pas, comme je disais, les plus sexy, mais c'est important d'avoir quelqu'un qui est en contrôle dans ces dossiers-là parce que quand ça pète, comme on l'a vu avec la petite fille de Granby, ça pète fort. Et donc, comme t'es constamment en train d'essayer d'éteindre des feux, d'avoir quelqu'un qui est en contrôle, qui est capable d'éteindre ces feux-là pour éviter que ça retentisse dans le tableau de bord du premier ministre. Je pense que c'est un gros atout pour le gouvernement. Puis moi, je le voyais rester là et effectivement, là, il reste là. Ce qui est surprenant, par contre, c'est que M. Carman, c'est assez connu à l'interne qu'il ne pense pas se représenter en 2026. Mmh. En tout cas, c'est ce qu'on entend. Et rappelle-toi, JF, c'est la raison qu'on avait donnée à François Bonnardel pour l'exclure, la raison, disons, officielle.
Parce que là, tu as Lionel Carman qui ne pense pas se représenter. Tu as Martine Biron aussi, bon, que perdu son ministère des Relations internationales pour se retrouver à l'enseignement supérieur, mais elle demeure quand même au sein du Conseil des ministres.
Oui, même chose pour Benoît Charrette, que c'est assez clair. Je pense qu'il l'a même dit publiquement qu'il ne se représentait pas. Éric Girard, je pense que tout le monde est pas mal au courant qu'il ne souhaite pas se représenter. Monsieur Dubé, etc. Madame Sonia Bélanger, tous des ministres dont on a une bonne idée qu'ils ne se représenteront pas.
Est-ce qu'on a menti à François Bonnardel?
Ben non, moi, comme je te dis, comme je t'ai dit à plusieurs reprises déjà, malgré que lui, dans son tweet, en quittant, a dit que le premier ministre lui avait dit souhaiter vouloir rajeunir son conseil des ministres. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Là, on ne parle pas d'un club de hockey.
On n'est pas en reconstruction du côté de la CAQ.
Oui, c'est ça. C'est pas une question de reconstruire un nouveau club. Là, mais publiquement, il y a aussi le fait, comme on disait, qu'il ne se représentait pas en 2026, qu'il avait joué contre lui, ce qui me porte à croire qu'effectivement, quand on dit que Bonnardel a un petit peu été l'agneau sacrifié pour tous les déboires de la SAQ, je pense que ça tout pointe en ce sens-là quand on regarde le nombre de ministres qui ont dit ne pas se représenter en 2026 et qui seront renommés ministres aujourd'hui.
Maintenant, parlons d'agneau sacrifié. Qui perd dans ce conseil des ministres, ce nouveau conseil des ministres? On a parlé des gagnants. Maintenant, qui sont les perdants?
Il n'y en a pas tant que ça. Il y a eu beaucoup de mouvements latéraux. Tu sais, Caroline Proulx qui s'en va aux aînés, Catherine Champagne-Jourdain à la famille, Sonia Bélanger à l'habitation, tu sais, c'est pas mal.
Geneviève Guilbeault à affaires municipales.
Ouais, ça, c'est pas mal, effectivement, dans le même ordre.
Mais c'est un peu une démotion, ça. Je veux dire, c'est beaucoup moins gros. Mais tu sais, j'ai hâte de voir ça va être qui la personne qui va être aux côtés de François Legault. Mais tu sais, aux affaires municipales, après avoir eu les transports...
Mais c'est surtout son rôle de vice-première ministre, en fait.
Oui, mais qui va prendre qui lui... ça? Oui,
ouais, ça, on a le nom qui court, c'est Christine Fréchette. On va le savoir à 14h. Mais c'est surtout à ce niveau-là qu'elle elle a une démotion. C'est qu'elle était la deuxième en liste derrière François Legault dans la hiérarchie de l'État et perd ce poste-là. Par contre, Mme Guilbeault, elle avait demandé les affaires municipales, de ce que j'entends. elle souhaitait être dans un portefeuille qui n'est plus dans la gestion de crise après avoir été à la sécurité publique avec tous les cas de meurtre de gangs de rue à Montréal, par la suite au transport, la SAQ, les feux de forêt, les crises d'un point de service de la SAC. Je pense qu'elle avait peut-être le goût de respirer un petit peu. Et avec le départ de Mme Laforêt, le portefeuille des affaires municipales, c'est devenu possible pour elle.
Est-ce que c'est une stratégie personnelle, tu penses, pour Mme Guilbeault pour essayer de redorer son blason puis se faire voir autrement d'ici la fin du mandat de François Legault puis peut-être reprendre un peu de blason doré.
C'est pas la bête.
Ouais.
Ouais, ben peut-être. C'est sûr que son étoile a beaucoup pâli, puis on lui a longtemps donné des aspirations pour ce qui est d'être une éventuelle dauphine à François Legault si jamais il advenait qu'il quittait. Fait que peut-être qu'il y a un petit peu de ça, de vouloir être en contrôle des dossiers qui sont moins explosifs, puis de redorer son blason. L'autre personne qui, selon moi, au-delà de ceux qui n'ont pas été renommés, évidemment, on a parlé de Bonnardel, de Suzanne Roy et de
André Lamontagne.
Mais c'est ça, c'est Bernard Drainville, malheureusement, pour lui, tu sais, c'est un ministre qui demeure en poste, mais de passer de ministre de l'Éducation à ministre de l'Environnement, je dois t'avouer que c'est une grosse, grosse, grosse surprise pour moi et pour beaucoup de gens. On ne voit pas vraiment, là, si ce n'est qu'au niveau du fit, un gars que, dès ses premières semaines à la CAQ, qui est allé mentionner « Lâchez-moi avec les GES », qui a été un fervent défenseur du troisième lien, étant député de Lévis, là, se retrouve à l'environnement. Je le vois pas, le lien. Là. Il y a peut-être quelque chose que je comprends pas. Là.
Tu te l'expliques pas, finalement, dans la stratégie politique. Là.
Je ne le comprends pas. Puis, tu sais, là, c'est sûr que moi, évidemment, j'ai, disons, un biais par rapport à M. Drainville, mais j'écoutais les différents chroniqueurs ce matin, Alain Laforêt, qui disait, tu sais, est-ce que l'environnement, c'est le portefeuille que tu donnes à un de tes joueurs de premier trio? La réponse à cette question-là, c'est non. Alors, Pourquoi Drainville à l'environnement? La question est dans l'air. Je ne sais pas comment vous voyez
ben
ça.
Moi, mon hypothèse, c'est que Bernard Drainville va aller faire la job de bras pour François Legault que Mark Carney a amorcé la semaine dernière, c'est-à-dire dire les objectifs qu'on s'était fixés en termes de vente de véhicules électriques tombent à l'eau et on continue avec la vente de véhicules à essence.
Mais tu sais, ça, il savait. Moi, j'analyse la situation comme... Je me ramène à des événements du genre Bernard Drainville revient en politique après avoir été chroniqueur dans les médias, avoir défendu tellement d'enjeux pour la grande région de la Capitale-Nationale et même Chaudière-Appalaches. Présente ici, milite pour le troisième lien. On va de l'avant avec la CAQ, finalement. On arrête le projet. Il reste authentique, il reste honnête. Il faut lui donner. Là, on rend César ce qui appartient à César, mais il est allé publiquement. Il en était motif de l'annulation de ce projet-là. Il est allé un peu dire qu'il n'était pas d'accord, même s'il était au sein d'un parti qui prenait cette décision-là. Ensuite, on l'envoie à l'éducation. Ça a été très compliqué. C'est jamais un ministère qui est facile en partant. Y a-tu Réfifi à l'interne? Y a-tu quelque chose qu'on ne sait pas? C'est un ministre qui est fort. Sans le dire où est fort, on a toujours eu un genre d'envie d'avoir plus de torque en politique du côté de Bernard Drainville. Moi, il y a quelque chose qui se passe au sein de la CAQ, là. Puis c'est pas pour le seul ministre que je me pose la question, mais il y a un enjeu de pouvoir qui existe, on dirait, qui est sous-jacent.
T'en penses quoi, Lambert?
Je sais pas, bien honnêtement, je...
Mais sortons de Bernard Drainville,
ouais.
T'sais, prenons tout le monde, là. On l'a senti avec Jolin Barrette à un moment, on l'a mis exactement là où il faut qu'il soit, selon moi, pendant plusieurs années. C'est un avocat, c'est un gars qui a fait avancer tout ce qui est justice de main de maître. Après ça, on a pris Mme Guilbeault, on lui a fait faire toutes sortes de stepettes politiques. On l'a mis sur le piédestal, on l'a enlevé, on le ramène. Même chose avec, je trouve personnellement, Bernard Drainville. On lui a tapé sa tête publiquement. Il y a comme un genre de fonction de pouvoir de François Legault, de leadership, là, qui commence à être un petit peu sombre, je trouve, dans le portrait global. Il semble avoir de la misère à ne pas être l'étoile. Puis, permettez-moi de faire un lien avec comment il traite les femmes de sa vie, des fois en point de presse qu'on voulait. Puis ça, c'est vraiment une opinion personnelle. Mais il aime la lumière autour de lui. Ça peut-tu jouer en ce moment dans son remaniement ministériel? Je me pose la question.
Possiblement, tu sais, il y a des tractations, il y a des égos aussi, il y a des relations entre ces êtres humains-là. Moi, je pense que oui, M. Legault, comme plusieurs, là, évidemment, chef d'État, a sa fierté, et quelqu'un qui, depuis le temps qu'il est en politique, clairement, je pense qu'il apprécie le fait d'avoir un certain pouvoir. Mais ça reste un joueur d'équipe, M. Legault. Ça reste quelqu'un qui a toujours été très, très fidèle aux gens qui l'ont amené là où il est, qui n'a pas hésité à déléguer du pouvoir, parce qu'on peut le voir de deux façons.
Mais ça, c'est personnel. Oh, je m'excuse, on n'a plus de temps, mais ça, c'est... En tout cas, ça, c'est personnel à lui, c'est pas personnel d'équipe. En tout cas, on pourrait avoir une grosse discussion. On en fera une à un moment donné,
ouais.
Lambert.
Ouais.
Lambert Drainville, on adore le fait de te parler à chaque semaine, les mercredis et vendredis. C'est exactement ce qu'on va faire vendredi. La poussière va avoir retombé. On pourra regarder encore davantage ce qui va s'être produit cet après-midi à 14h.
Ouais.
Puis,
Tu me laisses-tu deux secondes?
Ben, vas-y.
Je vais closer ça.
Close ça.
On en parle beaucoup de ça, le remaniement, puis c'est très chouette. C'est un exercice qui est le fun pour les tripeux de politique, mais je pense que c'est important de mentionner là, que chez les Québécois moyens, là, ce rebrassage de cartes, là, ça ne dit pas grand-chose, puis ces gens-là vont s'attendre à des résultats là, avant de s'exciter le poil des bras. On en parle beaucoup, mais au niveau de l'impact que ça va avoir sur les sondages, les intentions de vote, tout ça, je garderai les attentes très, très, très basses. Dans le passé, ce n'est pas des exercices qui ont nécessairement mené à d'énormes changements. On va plutôt regarder du côté de l'ouverture de la session parlementaire le 30 septembre, puis de la prise de parole d'ouverture du premier ministre qui va donner les grandes lignes de quelle va être sa stratégie d'ici à l'élection de 2026. C'est ça qui va être important. Et les résultats, M. Legault va devoir livrer et il lui reste seulement un an.
Bien, on se parlera de ça vendredi, Lambert, si tu le veux bien. C'est très intéressant comme sujet. Merci encore, mon chum, d'être avec nous les mercredis et vendredis. Et on se parle justement à la fin de la semaine.
Merci beaucoup.
Salut.
Bien. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 102.1. C'est l'émission On en jase avec Jeff Fortin et Pascal CV. Au retour, Anne Guérette, chef du Parti du Monde, vient s'asseoir avec nous et son nouveau colistier pour nous expliquer qu'est-ce que le Parti du Monde et qui est ce colistier. Restez avec nous.
À Boulevard 102.1.
On a le bonheur de vous jaser à chaque midi à On en jase sur les ondes de Boulevard 102.1. Jeff Fortin, Pascal CV avec vous de midi à 14h. Et vous le savez, à Boulevard 102.1, on fait place à tous les courants politiques et on offre le micro à tous. Moi, Pascal, ça me fait vraiment triper Boulevard 102.1 pour ça, pour ça. Permettre à tout le monde de venir jaser avec nous.
Ah oui, puis jaser ce midi, moi, je prendrais 4h.
Exactement.
Je trouve que du contenu pour 4h.
C'est
trop. Je me suis épivardé, je m'excuse.
C'est trop court, 2h. T'as entièrement raison, Pascal. C'est bon, on va aller voir les boss, on va leur dire « Agrandissez les plages horaires. » Non, c'est pas bon. On va commencer par faire notre émission de 2h et après, on verra. Et on a le bonheur de recevoir, c'était le lancement, je dirais comme ça, de campagne et surtout la présentation du colistier. On a le bonheur de recevoir la candidate à la mairie de Québec pour le Parti du Monde, Anne Guérette. Madame Guérette, ça va bien? Oh, ça va aller mieux si je vous ouvre les micros. Madame Guérette, deuxième chance, ça va bien?
Ça va très bien, merci.
Good. Et vous êtes accompagnée de Frédéric Imbeau, qui va être votre colistier dans le district Cap-Rouge-Laurentien. Monsieur Imbeau, bon midi.
Merci beaucoup, bon midi aussi.
Ça fait plaisir. Pourquoi, Madame Guérette, Cap-Rouge-Laurentien comme district pour avoir un colistier?
Bien, en fait, moi, je cherchais d'abord une personne, puis ça s'est donné qu'il était dans Cap-Rouge-Laurentien, et c'est parfait. Alors, ça vient, comment je dirais, couvrir un peu plus la périphérie de la ville. Mm-hmm. Puis en même temps, dans tous les cas, nous, on est là pour gagner. Mais la démocratie, c'est pas moi qui la contrôle. Disons que, malheureusement, je ne suis pas élue mairesse. Frédéric, ça va me faire plaisir de le guider vers son assermentation et son travail de conseiller municipal. Je n'ai pas l'intention de prendre son siège. Je n'ai pas pris un colistier parce que je veux me réserver une place pour être conseillère. Et souvenez-vous, en 2017, quand j'ai perdu la mairie, j'ai laissé ma place à Jean Rousseau qui a pris la relève.
J'étais là en 2017.
Bon, ah ouais,
j'étais
un beau
là.
Point de presse.
Je couvrais
touchant.
Le municipal avec un de mes collègues, Jonathan Bernard, que vous souvenez sûrement. Je dois dire que jamais j'aurais cru que vous alliez retourner en politique. Madame Guérette, je pensais que vous aviez acheté la paix après en disant non, non. Moi, j'ai un CV étoffé, j'arrête ça là.
Bien, c'est ce que je pensais, finalement, en 2017. Là, c'était pas prévu, puis j'ai fait plein de choses pendant les 8 dernières années. On pourra en jaser peut-être une autre fois. Mais c'est le projet de transport structurant qui m'amène jusqu'ici. C'est-à-dire que moi, j'ai couvert la campagne électorale en 2021. Est arrivé un nouveau maire, jeune. Je pensais qu'on aurait enfin une démocratie.
Bruno Marchand.
Exactement. Mm-hmm. Donc, je l'ai rencontré 3 mois après son élection. J'ai présenté mon concept de book. J'ai proposé de rencontrer les citoyens pour consulter la population parce qu'il y avait beaucoup de drapeaux rouges. Ça fait longtemps qu'on sait qu'il y a beaucoup de drapeaux rouges sur le chemin du développement du projet de tramway de Québec. Bon, il a dit non, mais moi, j'ai continué mon chemin. Puis finalement, bien, je vais aller jusqu'au bout de ça parce qu'on ne peut pas laisser notre ville continuer à avancer avec un projet de tramway qui va être, à mon point de vue, catastrophique à tous les niveaux, puis surtout en plus sur le plan financier. C'est nos enfants qui vont hériter des coûts d'opération, des coûts d'entretien.
C'est vraiment ce qui vous a ramené.
C'est ce qui m'a ramené.
Comment Anne Guérette va faire pour devancer les autres candidats dans les sondages? Parce que, tu sais, on regarde Bonhomme, Malin, Bruno Marchand, toujours entre 36 à 39 % Sam Hamad avait 33 % au dernier sondage. Ça fait quand même une tarte de 70 % qui est partie. Comment vous allez faire pour convaincre la population?
Bien, premièrement, on n'était pas là, là, vraiment. T'sais, on a été très tranquille parce qu'on avait beaucoup de choses à préparer.
Mais admettons que vous auriez été là, ça aurait été quoi votre pourcentage? Ah, ben, je pense. Vous partez avec combien?
Je sais pas. Mais je pars comment je dirais? Oui, certainement, on est déjà sous-estimé, mais ça ne fait que commencer.
OK. Et, Claude Villeneuve nous disait la même chose un matin. Il était à 7% dans les sondages, puis il disait « Je suis le deuxième choix de tout le monde. » Mais c'est-tu vous le deuxième choix de tout le monde?
Moi, je pense que je vais être le premier choix.
Le premier choix?
Ah oui, j'y crois.
Et là, pourquoi
Parce
vous choisir?
Parce que j'ai plus d'expérience que tout le monde. Ah, parce que je connais la
même
ville par cœur.
Même que Sam Hamad, qui a été ministre de la Capitale-Nationale.
Au municipal, c'est moi qui ai le plus d'expérience dans toute la gang.
OK. Et vous pensez que cette expérience-là va vous faire gagner?
Oui, parce que cette expérience-là est jumelée d'une vision forte, mm-hmm. puis d'une intégrité inébranlable.
Mais dans votre comté, vous pensez passer dans votre comté, mais pas nécessairement...
Non, je veux passer à grandeur de la ville pour être mairesse.
Oui, ça, vous y croyez Frédéric... encore?
Ah, ben, j'y crois encore.
Pas contre
J'y crois
vous.
Plus que jamais.
Pas contre votre personnalité politique, pas contre... Mais on a tellement l'impression que la lutte s'est installée. Vous comprenez ce que
non,
je veux dire?
Ben, c'est ça. C'est parfait.
Vous arrivez dans la
ah, main. C'est ça, on est dans bataille à deux, là, sa maman, ben, Bruno Marchand.
Il était temps que j'arrive. Il était temps que j'arrive, là. Vous allez voir, je mets de la couleur là-dedans. Vous allez voir
Ça. Avant de passer à Frédéric, je veux juste savoir, vous parlez beaucoup de tramway, puis vous êtes présenté pour être contre le tramway. Sam Hamad, même chose. Stéphane Lachance, même chose.
Ouais.
Qu'est-ce qui vous différencie de ces deux-là?
C'est que nous, on a une vision vraiment forte. Moi, ça fait 4 ans que je regarde le dossier de tramway de long en large, dans tous les sens, dans tous les côtés.
Oui, mais outre le tramway, là, on oublie le tramway. Ah, c'est quoi qu'Anne Guérette va proposer à la population?
Dans son programme global,
oui, exactement.
Okay. Ben, c'est sûr, le projet de transport. Mais outre ça, on va adresser la crise du logement et l'accès à la propriété. On va parler de l'itinérance. C'est un problème de plus en plus grave. Puis bien sûr, ensemble, Frédéric et moi, on va changer le climat de travail à l'hôtel de ville. C'est, je veux dire, là, la partisanerie politique, non seulement c'est malsain, c'est toxique. Et la façon dont j'ai choisi de faire campagne, avec seul un colistier, non pas toute une équipe de plantes vertes, on va le dire, on a vu sous souvent, là, mais on le voit même au gouvernement, tu sais, tout le monde, la ligne de parti, c'est nuisible, puis ça éloigne les élus de leurs citoyens. Donc, nous, on veut changer ça.
Si l'itinérance vous tient à cœur, vous conseille d'écouter l'équipe du matin ici à Boulevard 101, parce que Yannick Marceau, qui est l'animateur, vit des affaires, il a déménagé à Saint-Roch et encore hier, il y avait un itinérant qui est entré dans sa voiture, il a ouvert la porte, puis il y avait un itinérant qui était là dans son stationnement privé, intérieur, fermé. C'est particulier, autant une détresse pour lui qu'une détresse pour la personne dans
Absolument.
La voiture. Le contexte est là, il est chaud à Québec. Qu'est-ce que vous avez appris de votre défaite du passé? Parce que c'était une lutte très chaude que vous aviez avec Régis Labeaume dans le temps. Qu'est-ce que vous voulez pas ramener de votre gestion à ce moment-là?
Bien, premièrement, c'était pas une lutte chaude du tout contre Régis Labeaume. Là. Régis Labeaume était vraiment une rock star, là, très difficile à battre. Donc, j'étais lucide à ce moment-là.
Mais vous étiez un peu ce qu'on voit avec Sam Hamad actuellement et Bruno Marchand. Les deux, vous affrontiez toujours terrain. Vous étiez très couverts.
Ben, moi, c'est sûr que j'ai été celle qui s'est tenue debout devant Régis Labeaume pendant 10 ans à l'Hôtel de Ville de Québec. J'ai été celle qui n'a pas eu peur de lui, de se lever debout. Il y avait beaucoup de gens qui le suivaient, là, puis qui n'osaient pas. Alors moi, c'est comme ça, sans le savoir, que les gens m'ont connue.
Qu'est-ce que vous ramenez pas?
Si on veut résumer ma carrière... Pardon?
Qu'est-ce que vous n'allez pas ramener cette fois-ci que vous pensez que ça n'a pas fonctionné?
Régis Labeaume n'est plus là. Je pense que ça fait une grosse différence. Quand Bruno Marchand, c'est quelqu'un justement qui se fait diriger par sa machine. Il se fait diriger par la machine politique puis la machine administrative. Un peu comme tout ce qu'on voit là, qui donne la commission Galland. Je ne sais plus, je ne m'en souviens plus, je ne m'en rappelle plus. C'est pas moi qui ai décidé, c'est eux autres. C'est mon chef de cabinet, c'est ici, c'est ça. Alors, c'est ce
avez-vous
genre
un exemple
de...
concret?
Pour lui?
Oui, qu'il se fait diriger par la machine.
Bien, le projet de transport. Moi, quand je l'ai rencontré personnellement, le 15 février 2022, sur mon écran, il était avec son chef de cabinet. Il m'a dit, moi, je viens d'arriver. J'ai rencontré les experts. Et puis, le train est en marche. Puis, j'embarque là-dedans. Donc, il n'a même pas été en mesure d'ouvrir un peu ses œillères pour dire... C'est intéressant, je viens d'arriver, je vais consulter ma population, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire de différent. Mais je veux dire, je veux juste, factuellement, c'est un homme qui est arrivé avec aucune expérience. On l'a payé 250 000 $ par année pour apprendre à être maire d'une ville. C'est quand même quelque chose, là. OK? Fait que lui, il était incapable de virer le paquebot de bord, là. Donc, il donne son pouvoir à sa machine. Moi, je suis celle qui est capable de conduire la machine.
Je vais me concentrer sur votre co-listier, oui. M. Frédéric Imbault. Comment vous allez faire pour sortir Louis Martin, conseiller municipal présentement de Cap-Rouge-Laurentien, de son siège, lui qui se présente maintenant avec l'équipe Leadership Québec?
Ça va être un beau défi parce que M. Martin est présent depuis un bon bout de temps, il est connu. Donc, on va viser une approche vraiment terrain. On va aller jouer dans ses plates-bandes. On va faire exactement ce qu'il a fait la dernière fois pour être élu. On va essayer de le faire mieux que lui. On va augmenter nos chances de succès comme ça. On va prendre le temps de parler avec les citoyens. On va prendre le temps aussi de leur expliquer que le rôle d'un conseiller, c'est un rôle qui c'est une personne qui doit être décisionnelle, qui doit avoir une certaine autorité, qui doit être la courroie de transmission de la volonté des gens. Puis qu'est-ce qu'on marque depuis 4 ans? C'est que les promesses électorales qu'il avait faites il y a 4 ans sont pas mal les mêmes choses qu'il est en train de présenter aujourd'hui.
OK, lesquelles, par exemple?
Bien, il parlait d'améliorer la circulation. On est encore aux mêmes choses que la dernière fois. D'améliorer la sécurité proche des écoles. On est encore là. De diminuer la congestion, c'est encore ça. D'avoir un plan d'urbanisme beaucoup plus vert, quitte à ne pas couper d'arbres, des choses comme ça. Puis on voit qu'est-ce qui arrive avec le terrain de golf de Cap-Rouge. Là. Il est en train de tout laisser aller comme ça.
Oui, avec les projets de condos.
Donc, on voit que les promesses d'il y a 4 ans sont encore les mêmes, puis il va probablement proposer la même chose. Puis je pense que les citoyens de Cap-Rouge-Laurentien sont pas dupes, là, sont capables de voir que les tâches n'ont pas été faites, les promesses n'ont pas été remplies. Donc, je pense qu'ils ont droit de... Ils vont se poser la question, puis j'espère qu'ils vont vouloir changer.
Vous êtes élu demain matin. Mme Guérette passe pas à la mairie. C'est-tu vous qui deviens chef du Parti du monde?
C'est un scénario qu'on n'est pas encore là. Je vous dirais, la campagne n'est même pas encore commencée. C'est une très bonne question. Je pense qu'on va se poser la question le lendemain, voir sur les détails, ou je dirais des détails techniques, parce que cette question-là, c'est pas un enjeu pour les citoyens. Les citoyens, c'est une curiosité, là, ça fait jaser, mais ça donne rien de... Ça apporte rien aujourd'hui.
On est là pour gagner tous les deux, de toute façon.
Celle-là, je m'attendais à ce qu'elle sorte après.
Ben oui, on est là pour gagner! J'aime ça, la détermination.
Ça n'arrivera pas, on n'aura pas besoin de penser à ce scénario-là.
J'aime ça, la détermination.
Je vous agace, mais vous êtes qui, vous? C'est une question que parlant de votre ancien homologue, Régis Labeaume, il aimait ça la poser. Vous êtes qui, vous?
Oui, ben moi, c'est Frédéric. Je suis quelqu'un qui vient du quartier Cap-Rouge-Laurentien. Je suis né là, j'ai grandi là. J'élève ma famille en ce moment dans ce quartier-là. Je suis quelqu'un qui est très, très rigoureux, qui a un sens d'éthique très développé, qui est très intransigeant sur ces valeurs-là.
Vous avez l'air doux, pourtant?
Oui, mais c'est une douceur tranquille, tu sais. Il y a plein de choses qui sont à la fois douces et fortes. C'est pas parce qu'on lève les baguettes en l'air qu'on crie partout que ça... Des fois, c'est juste brasser du vent. Brasser du vent, ça change pas grand-chose. Ça fait juste si vous rifler les cheveux, par exemple, on passe autre chose. Je préfère me définir comme une force tranquille. On met les choses en place, on fait avancer, on rencontre les bonnes personnes, on consulte les acteurs de changement, on les amène au mouvement. Et puis après ça, on construit une mise en marche, on construit un mouvement. C'est beaucoup plus important que juste lever les baguettes en l'air. Là. Vous avez mes mains, ils ne sont pas très agitées. Je ne suis pas quelqu'un d'agité naturellement.
Votre parcours professionnel ressemble à quoi?
Parcours professionnel, moi, c'est j'ai longtemps été dans les ventes et développement des affaires. Essayer de rencontrer des gens, comprendre leurs besoins, développer des solutions durables pour eux autres, anticiper les changements, qu'est-ce qu'ils vont avoir d'impact sur leur vie, proposer, les accompagner. Ça, c'est des choses là, qui me parlent, ça fait partie de ma personne. Moi, je suis quelqu'un qui aime ça améliorer ce que les gens vivent au quotidien, court, moyen, long terme. Puis, je pense que le municipal, c'est un bel endroit pour ça parce qu'on est capable de changer des affaires relativement rapidement sur certaines choses. Il y a des choses qui prennent plus de temps. Mais au final, ça va toujours avoir un impact sur le citoyen. Il faut toujours chercher le bon impact sur le citoyen, toujours mettre le citoyen au centre de la réflexion puis de la décision. Puis moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, l'espèce de service à la clientèle. Dans le fond, le citoyen est le client de la ville. Il faut en prendre soin. On ne va pas juste le consulter une fois aux 4 ans pour avoir son petit vote, puis après ça, on fait ce qu'on veut, puis on encaisse notre chèque. C'est vraiment une pratique que je trouve qui est vraiment déraisonnable. Puis souvent, comme Anne l'explique si bien, c'est l'enjeu des partis politiques a cet effet-là aussi. Le fait que le conseiller va être muselé, pourquoi? Parce que là, il faut qu'il fasse partie du groupe. Le groupe, il est pesant. Le parti politique a des intérêts aussi. Donc, le rôle du conseiller municipal, c'est pas de remplir les besoins du parti, c'est de répondre aux besoins des citoyens. Fait que c'est pour ça qu'on a repensé un peu cette façon de faire-là. Les gens trouvent ça original. Jusqu'ici, on a une très belle ouverture. Les gens sont curieux, ils nous posent des questions, ils sont capables de comprendre. Puis là, on leur explique, écoutez, le municipal, c'est un endroit où est-ce qu'on vote pour le premier citoyen, le maire ou la mairesse, et pour le conseiller. Donc, on n'a pas recréé un petit peu cette espèce de dynamique, moi, que j'appelle Parlement britannique, où est-ce que c'est la personne qui a le plus de nombre de conseillers ou de députés qui gouvernent.
Qui gouvernent,
on a
plus.
La chance de ne pas avoir ça. Mm-hmm. Fait que je pense qu'il faut vraiment...
Optimiser les impacts positifs de ça. Vous voyez, j'ai un conseiller extraordinaire.
Oui.
J'ai un candidat extraordinaire, puis je pense que Frédéric va faire un excellent conseiller dans le district Cap-Rouge-Jorassin, puis un excellent collaborateur de premier ordre pour moi comme futur mairesse.
On se fait une promesse, on se reparle prochainement, Mme Guérette, n'importe quand vous arriverez avec plus de détails, notamment en itinérance. Je veux qu'on ait une discussion
parfait,
sur l'itinérance.
Parfait, puis le 17, la semaine prochaine. En tout cas, suivez-nous sur les réseaux sociaux.
7, le lancement officiel?
Oui.
Excellent.
On va annoncer ça. Parfait.
On se parle de ça. Merci
super,
beaucoup de votre présence
beaucoup,
en ondes aujourd'hui. Merci. C'était Anne Guérette, candidate à la mairie pour le Parti du Monde, et Frédéric Imbeau, son candidat dans Cap-Rouge-Laurentien, colistier pour le Parti du Monde également, qui était avec nous en studio. On termine cette émission-là, Pascal, avec des notes de sport. Premièrement, les Capitales de Québec l'ont emporté 4-2 hier à Tri-City contre les Valley Cats. Le deuxième match de cette série 3-5 va avoir lieu ce soir au domicile des Cats, et c'est en fin de semaine. Donc, vendredi, samedi et dimanche, il y a des matchs 4 et 5. Ça va être au Stade Canac, un Stade Canac complet encore une fois.
Remplissez ça, le Stade Canac, jusqu'à la toute fin.
Oui, ça va bien notre équipe de Québec parce que, écoute, on est maintenant à 2 victoires. D'une 4e finale consécutive et pourquoi pas un 4e championnat.
Des belles années qui nous offrent. Ah, le baseball est revenu en force depuis les dernières années.
C'est vraiment trippant. Parlant de baseball, les Jays de Toronto l'ont emporté hier 4-3, remontée de dernière minute, victoire en 10e manche. C'est une 83e victoire pour eux.
Belle saison cette année.
Belle saison. Les Jays ont augmenté leur avance à 3 matchs sur les Yankees. Il y a le Grand Prix cycliste de Québec qui va avoir lieu vendredi. On parle beaucoup de manifestations et je vous fais entendre le maire Bruno Marchand qui a tenu à rassurer la population.
La police de Québec est un excellent service de police. On accueille plus de 300 manifestations par année. Il ne faut pas oublier que c'est une expertise qu'on a par le fait qu'on est une capitale, qu'on a un parlement. Donc, on a déjà cette expertise. On l'a vu dans le passé. C'est les mêmes règles qui s'appliquent. Les gens ont le droit, comme le dit Joseph, ont le droit de manifester, ont le droit de faire valoir leur point de vue. C'est un droit qui doit être respecté. Et les discussions entre le service de police et les différents groupes de manifestants vont dans ce sens-là. Vous aurez le droit de manifester, vous aurez le droit de faire valoir vos opinions. Et en même temps, il y a une organisation d'un événement qui doit se tenir pour protéger la sécurité des coureurs et des participants.
C'est très positif. On parle de manifestation de groupes pro-palestiniens parce qu'il y a une équipe qui s'appelle Israël Première Tech dont fait partie Hugo Hull, un Québécois qui a gagné la 16e étape du Tour de France en 2022. Donc, les gens pourront manifester, mais comme pour toute manifestation, Pascal, ils auront un parcours justement à suivre. Alors, c'est une bonne nouvelle. On souhaite qu'il n'y ait pas de débordement vendredi. Pascal, c'est une émission que tu as appréciée?
Absolument.
C'était le fun avec Antonine, avec également Lambert Drainville, Mme Guérette qui est venue faire un tour. On vous le rappelle, c'est la Journée nationale de prévention du suicide. 1-866 appel si jamais vous avez des difficultés présentement, vous avez des idées noires. Allez-y, sortez de l'ombre. Vous êtes faites très fort et je suis certain que vous allez vous en sortir si jamais il y a
quoi
que ce
soit.
Bravo
pour ton témoignage en passant en début d'émission. C'est très touchant ce que tu fais
aujourd'hui. Ça fait plaisir. On doit s'en sortir et on doit être coude à coude, tout le monde, collectivement. Le retour de Gravel suit dans l'instant où on se parle demain midi. Bye-bye, guys.